quel lien vous êtes habitué maintenant. Tous les lundis soirs, c'est comme ça. On va passer 1h30, 2h en votre compagnie pour parler de la Ligue 1. On a eu une belle journée de championnat ce week-end. Alors ce soir, il y a une sacrée table autour de moi et on va avoir des analystes de toutes les équipes, je vous l'annonce. Alors on a par exemple Sinote, salut Sinote pour le PSG. Salut. On a Fabien qui fait ses grands débuts avec nous, supporter du Racing Club de Lens.
Bonsoir.
On a Marvolo, on ne sait pas trop quel club il supporte, il aime bien surtout tailler les clubs. Salut à toi Marv.
Bonsoir.
On a Hugo avec nous, supporter de Monaco.
Oh là.
Roméo est revenu après être allé manger. Salut Roméo.
Oui, j'ai bien mangé. Salut à tous.
Rognetto est là, qui fait également son retour après quelques semaines de vacances. Salut Rognetto.
Salut.
Palenka est avec nous. Salut Palenka.
Salut.
Et Yak est également avec nous, ce qu'il nous fallait un bordelais évidemment ce soir, parce que comme on vous a dit, on fera un peu le tour des clubs de Ligue 1. Salut Yak.
Ouais, bonsoir.
Alors, il y aura peut-être du monde qui va nous rejoindre en cours de soirée. De toute façon, avec la connexion de Cénote, on peut inviter le monde qu'on veut. Donc, ce soir, on va pas se faire chier, on va pouvoir faire une belle émission. Alors, je vous ai dit, on n'a pas vraiment de ligne directrice pour ce soir. On va essayer de faire un tour des clubs, des informations qu'on a. On a quelques petits débats qu'on s'est lancés en off, qu'on aimerait bien un peu peaufiner. Et justement, bah, on commencera peut-être là-dessus. Commencer sur le PSG. Le PSG avec toi, Cénote, on en parlait l'autre fois à la fin de l'émission de samedi soir, qui a peut-être un problème au PSG. Il était déjà récurrent la saison passée. C'est le problème du milieu gauche. Le PSG qui a toujours pas la perle sur son côté gauche avec le problème Breton. Est-ce que tu peux nous reparler juste deux secondes de la performance, on va dire, entre guillemets, de Cessegnon sur son côté samedi soir? Et est-ce que toi, tu penses que c'est une bonne solution de le laisser sur ce côté-là, ou t'aimerais quand même bien recruter quelqu'un avant la fin du mercato?
Excusez-moi. Tu m'entends? Pour revenir sur Cessegnon, en fait, côté gauche, le poste qu'il utilise maintenant, faute de mieux, on va dire. Bah, pour revenir sur sa performance samedi soir, on va dire qu'il a été plutôt effacé, mais avec Cessegnon, on a l'habitude, parce que il est plutôt, enfin, il joue quand il veut, en fait. Donc, il choisit un peu ses matchs, il est jamais trop régulier. Mais, pour revenir vraiment à Cessegnon en tant que milieu gauche, je pense que pour nous, c'est la meilleure solution. Et, à la limite, si on devrait recruter quelqu'un, ça serait surtout quelqu'un, je pense, pour le suppléer à la place, quoi. Parce que à côté gauche, on a au jour d'aujourd'hui, on a que lui. Et après, il reste Jérôme Roten, comme t'as dit, mais Roten, il jouera plus jamais avec le PSG, ça, j'en suis sûr. Donc voilà, c'est faux. Pour moi, c'est Cessegnon titulaire à gauche toute la saison, je pense, parce qu'il en a largement les capacités. En plus, avec comme il est droitier, il aime repiquer dans l'axe sur son pied droit, il apporte débordement, etc. Donc voilà, c'est surtout un remplaçant qu'il faudrait pour lui.
Ok. Justement, on parlait là deux secondes de Roten. Je vois que comment Camboire a déclaré aujourd'hui sur lui que comment il préférait peut-être le maintien de Roten dans l'effectif. Toi, tu penses que Camboire disait la vérité ou il préfère
non, plutôt le faire dégager? Non, justement, je pense pas. Enfin, c'est à mon avis, c'est surtout un discours de circonstance. Pour pas écarter définitivement Jérôme Roten, mais personnellement, vu l'état de Jérôme Roten, au jour d'aujourd'hui, je peux le dire, peur de refouler la pousse du Parc des Princes. Donc je crois qu'il y a même pas à espérer, quoi. Déjà Roten, c'était déjà une déchéance l'année dernière avec un niveau proche du néant. Donc là, il va se faire siffler, il va se faire tuer. Donc vaut mieux pour lui qu'il refoule plus la pelouse du Parc avec le mode du PSG. Donc voilà, maintenant il faut qu'il parte et voilà, j'espère qu'on va l'aider à partir.
Là, il a refusé de jouer en CFA ce week-end. Là, lui qui devait jouer. Il y aura une sanction?
Bah, soit dit. Non, il n'y aura pas de sanction parce qu'il a trouvé comme excuse qu'il ne jouait pas avec la CFA parce qu'il voulait pas se blesser. Parce qu'apparemment, comme on joue le Restart, et le Restart, c'est connu pour être des matchs violents. Peut-être c'est un peu le derby. Voilà.
Donc, au pire, voilà. Vous le mettez en moins de 18.
Donc, il voulait pas jouer parce qu'il voulait pas se blesser, monsieur. Parce que, soi-disant, il a des contacts avec des clubs, mais bon, il a fait un essai à Blackburn. Blackburn, ça fait une semaine qu'on attend une offre. Soi-disant, ça avait marché, il n'y a toujours rien. Ça parle de l'Espagnol-Barcelone, on l'attend. Mallorca, pareil. Enfin, résultat des courses, personne ne veut Jérôme Roten, quoi.
Ouais. Donc, toi, tu sens bien qu'il va rester.
bah, il va rester, mais il va rester pourquoi? Voilà. Il va rester, mais il jouera pas, et c'est vraiment comme situation plutôt délicate, parce que Roten, en plus, il prend l'un des plus gros salaires du club. Donc, voilà pourquoi, si le Paris Saint-Germain sache à s'en débarrasser. Donc, voilà.
Il va peut-être être bradé à la fin du mercato aussi.
Bah, il y a cette solution aussi, mais le Paris Saint-Germain voulait faire de l'argent sur lui rapidement pour essayer de recruter quelqu'un à sa place, en fait, à gauche. Donc,
chiffre sa valeur à combien?
Franchement, je vais être gentil, 2 millions d'euros.
Ouais, donc il pourrait quand même partir assez vite quand on voit certains clubs anglais qui lâchent.
Ouais, mais justement, Blackburn, ils ont fait une première offre, ils voulaient récupérer Roten, je crois, à 500 000 euros. Donc, voilà, vu que Paris veut se faire un peu de marge sur lui, parce qu'on l'a quand même payé, je vous le rappelle, à l'époque, plus de 10 millions d'euros. Donc, voilà, Paris essaie de faire de l'argent sur lui, mais il n'y a personne qui répond aux attentes.
Ok. Ok, très bien. Ben, ma foi, on va attendre un petit peu voir le dénouement Roten. Sur le PSG, à moins que tu aies d'autres infos, je pense qu'on va pouvoir passer à un autre club. Peut-être revenir deux secondes là, je sais pas si vous avez vu sur l'attitude un peu d'Antoine Comboiré hier au Canal Football Club, pour ceux qui ont regardé. J'ai trouvé ça des fois un peu déplacé, ses propos. Alors, je sais pas, toi, Cénote, t'avais pu regarder l'émission?
J'ai pas vu les images, en fait, mais on m'a dit comme quoi, enfin, il aurait dit que ça le faisait chier, non, c'est ça?
Ouais, en gros, c'était ça, quoi. Mais bon, bah, c'est sûr que ça nous change de Lupin, quoi.
Ouais, voilà, c'est Antoine Comboiré, son caractère, on le connaît, c'est quelqu'un d'un peu sanguin, donc voilà, c'est sûr.
Ok, ok. Très bien. Non, bah, je pense que sur le PSG, on a fait le tour. Des nouvelles d'aujourd'hui, bah, on va passer, comme on a Hugo avec nous à Monaco. Alors, Monaco, quelques nouvelles aujourd'hui. Déjà, Pokrivac a signé à Salzbourg, c'est ça?
Ouais, bah, il a signé à Salzbourg pour 2 millions et quelques millions d'euros. Alors, voilà, quoi, c'est Pokrivac. Il ne s'est pas imposé à Monaco. Il a un bon potentiel, mais on lui a jamais trop donné confiance, c'est dommage. Bah après, ouais, les coachs devraient signer à Livourne.
Ok, ça c'est c'est bien envisagé quand même.
Ça devrait sortir dans les prochains jours pour 1 million d'euros.
Oui, donc ça commence vraiment à dégraisser du côté de Monaco dans le milieu axial. Donc Pokrivac qui s'en va, toujours pas d'attaquant à Monaco, puisque bah on va revenir peut-être deux secondes sur Coutadeur après, mais les pistes des attaquants sont envolées les unes après les autres, pardon. T'as pas vraiment de nouveaux noms à nous annoncer?
Ah non, mais je voulais revenir sur un truc, à Monaco c'est une vraie braderie. Parce qu'on a lâché 3 joueurs, on les vend moins de 3 millions d'euros, alors que voilà, on veut s'acheter Coutadeur qui coûte 4 millions d'euros. On n'a pas de moyens, donc oui, les dirigeants font vraiment tout pour se débarrasser des joueurs, mais n'en profitent vraiment pas, quoi. Et ça, c'est dommage.
Après, quand tu parles de braderie, je vois pas pourquoi tu dis ça, parce qu'ils sont vendus à leur prix, ils sont nuls.
Non, c'est pas...
Tu t'attends quand même pas à ce qu'on vienne prendre Pogrivac à 5 millions. Tu te rends compte que tu es en train de nous expliquer que Pogrivac, il a un bon potentiel. Et il y a qui est passé devant lui? Diego Pérez et compagnie, là. C'est chaud quand même.
Le Pogrivac, on peut le vendre à 4 millions à Cologne. On allait refuser. Après, on vend à 2 millions. Bolivar, Vargas et compagnie, on les libère pour qu'ils signent autre part. L'Eco, je sais plus où, j'avais vu 3 millions. On va le vendre à 1 million, donc voilà, quoi. À un moment, faut arrêter de tomber dans la facilité, faut négocier un peu plus, quoi.
En fait, j'ai l'impression que tu penses que les offres et tu confonds, si tu veux, les rumeurs et les offres concrètes. Est-ce que, par exemple, tu me disais, là, tout de suite, tu parlais de l'Eco, tu disais 3 millions, mais est-ce qu'il y a eu vraiment une offre de 3 millions ou pas?
Ça, je sais pas, mais il y avait des clubs intéressants.
Franchement, je pense pas, parce qu'à 3 millions, l'Eco, oh, tu le portes sur ton dos, tu l'emmènes où tu veux.
Non, mais juste le problème de Monaco, c'est surtout ils veulent à tout prix se séparer des joueurs pour faire baisser la masse salariale dans un premier temps, dans un deuxième temps pour avoir un groupe un peu plus réduit, parce que là il y a, je sais pas, 34 ou 35 joueurs et la combi il en peut plus, quoi. Et tu dis qu'ils sont bradés, mais est-ce que comme a dit Habib, est-ce que les clubs sont prêts à mettre plus? C'est surtout ça le problème, quoi.
Et puis franchement, les pistes évoquées, c'est franchement pas sérieux, quoi. Comment un club comme Monaco peut oser dire qu'ils vont récupérer Tony? Faut arrêter, quoi. Tu vois, ça me fait marrer, ça me rappelle un peu le mercato marseillais, tous les gens on écoute, ah on va récupérer Francesco Totti, on va récupérer Forlan, Eto'o est intéressé. Mais de quoi Eto'o est intéressé? Mais il est là pour faire sa pub, c'est normal qu'il va, bien sûr qu'il va dire qu'il aime l'OM. Tu veux qu'il dise quoi? Qu'il tiffe Saint-Etienne? Mais non. C'est comme ça, il faut arrêter de tomber dans ces délires-là. Et puis on sait très bien que Monaco, comme ils ont une fiscalité un peu différente, et ben là tout de suite c'est vraiment la fable au truc. Et c'est pas parce que vous avez récupéré Morientes puis Saviola, et regardez, hein, petit à petit ça descend, hein. Tu commences avec Morientes, Saviola, et puis tu récupères Guiri cramé, et tu finis avec Divayo bouilli.
Et Chevanton.
Ouais, Chevanton, on en parle. Bon, Chevanton encore, ils l'ont vendu 6 millions, il me semble.
Au Sevilla.
Donc ça va. Bon, Chevanton il s'est cramé après. En plus d'ailleurs quand il est arrivé de Lecce, il avait fait une belle saison, donc c'était le symbole du mauvais recrutement. Mais le problème c'est toujours la même chose avec Monaco, c'est que depuis 3-4 ans on recrute des joueurs à la peine, mais vraiment à la peine. Je crois que même les Monégas qui sont incapables de donner l'effectif complet, tellement il y a mais vraiment des chèvres. Bolivar, vous vous êtes fait arnaquer comme pas possible. Il a fait une belle. Alors, je sais plus si c'était la Liga
d'Adonis.
Le truc où il a été bon un petit peu. Et vous êtes enchaîné, enflammé, vous l'avez pris à 5 millions. Mais Bolivar à 5 millions, tu demandes deux secondes à un mec ce qu'il en pense. Un mec qui suit le championnat sud-américain, il va te dire si tu prends Bolivar. Mais bon, avec Marc Keller, quoi.
C'est ça le problème. C'est qu'il y a certains agents qui cherchent pratiquement à couler le club. On s'en rend compte de plus en plus parce que on nous récupère des joueurs un peu partout, des joueurs qu'on connaît pas du tout pour des prix dérisoires, et même des gars comme Marc Keller qui sont quand même le dernier rempart pour, enfin justement, c'est ça qui peut inquiéter, quoi. C'est le dernier rempart qui peut refuser un recrutement, va très peu refuser tous les joueurs qu'on nous a proposés de la région sud-américaine. Alors là, Là, jusqu'à il y a à peu près un ou deux ans, on était plutôt revenu branché là sur les pays de l'Est. Là, Guy Lacombe a voulu revenir sur un recrutement un peu plus français, ce qui est pas dénué de tout sens, mais finalement, on se rend compte que on a encore d'énormes difficultés à recruter correctement. Je voyais encore aujourd'hui un recrutement qui aurait pu s'avérer intelligent, c'était le Manso Mathieu Coutadeur, et finalement il pourrait finalement rester donc à Oman, puisque Monaco a proposé 2,5 millions, le Mans veut le double, et le Mans prend ça comme une provocation, le fait que Monaco propose la moitié du prix du joueur. Donc à mon avis, je sais pas ce que t'en penses Hugo, pour finir, mais on est plus sur un, enfin l'effectif devrait rester comme ça, puisque on n'arrive ni à trouver un attaquant, et Coutadeur qui était le dernier joueur outre un attaquant qui devait venir ne viendra pas.
Non, si on n'a pas Coutadeur, on se concentrera sur Yavanou, hein. Mais Coutadeur, à mon avis, on fera une offre en fin de semaine quand l'écho sera vendu, quand Simic et Müller seront partis, puis voilà. Mais là, c'est sûr que bon, le Mans demanderait 5, d'après Keller, et bon, vu qu'il reste une année de contrat, Keller veut pas mettre l'argent sur Coutadeur, enfin, il veut pas mettre autant que 5 millions. Et sinon, piste d'attaque, les exemples de Tony Van Nistelrooy, c'est pas sérieux, quoi, c'est du foot mercato craché. Et là où on avait des pistes sérieuses, ça s'appelait Dindan, ça s'appelait Savidan, et voilà, quoi, c'est Savidan, dommage que ça n'a pas conclu, Dindan, il a préféré jouer à Portsmouth. Tant mieux pour lui, mais voilà.
Ok, très bien. Et Palenka nous disait tout à l'heure aussi effectivement que le problème de Monaco, c'est qu'ils ont d'énormes salaires. Alors ils ont allégé un peu la masse salariale en cédant Flavio Roma à Milan. La masse salariale est toujours encore élevée avec certains joueurs, certains noms qui étaient là depuis souvent. Alors Meriem a été également laissé libre, et justement je rebondirai là-dessus pour passer, maintenant on va peut-être passer tout simplement à Lens, puisque apparemment on apprenait ce matin dans l'équipe que Meriem pourrait s'engager, puisqu'il est libre de tout contrat, je te rappelle Fab, avec Lens. Est-ce que toi t'as eu des échos de ton côté sur cette affaire là qui pourrait se conclure?
Oui, on a entendu parler d'une rumeur comme quoi il va pas bonne voie, mais moi bon, personnellement j'y crois pas beaucoup, quoi. Je vois pas en quoi il pourrait être utile au groupe qu'on a actuellement.
Ok, ouais. Et surtout que là, vous récupérez vraiment un gros salaire, donc vous en avez peut-être pas besoin pour un club qui vient de remonter. Je suppose que vous êtes, enfin, vous avez pas envie de vous embarquer avec encore des gros salaires. Pour l'instant, c'est quoi les plus gros salaires de Lens?
Bah, Aruna, peut-être Maulida, je pense, Kovacevic.
D'accord.
Mais Aruna, ça devrait se faire. Il a passé la visite à Portsmouth, donc ça devrait se faire rapidement. Kovacevic, bon, il va rester, ça c'est quasiment sûr. Après les gros salaires, bah il y a Calais, mais voilà quoi. À part jouer avec la CFA pour l'instant, hein, donc reste à voir. On n'a pas du tout de rumeurs comme quoi il a un contact quelque part, mais.
Ok, ok. Bah justement, comme on est sur Lens maintenant, est-ce que tu pourrais nous dire alors on a entendu des éloges là concernant les supporters lensois là. Il y avait le stade était plein ce week-end.
Bah pour Grenoble sûrement oui parce qu'on a joué là-bas. Mais le week-end dernier à Auxerre, ça a été quoi? Je crois qu'on a fait 35 000.
Ouais, donc on retrouve quand même à des gros publics en France qui revient, ce qui est pas mal, puisque la ferveur, si au moins on peut se vanter de quelque chose en France, c'est bien les supporters, puisque on sait que en Italie et en Angleterre, on se trouve quand même un petit peu en dessous. Enfin, ces pays-là se trouvent un petit peu en dessous au niveau de la ferveur populaire qu'entraîne le football. Sinon, je sais pas, est-ce qu'il y a eu des petites infos aujourd'hui sur Lens? Est-ce que tu pourrais nous en dire plus, Fabien, ou tu vois pas trop de choses à rajouter aujourd'hui?
Les deux courses d'infos, c'est la visite d'Aruna. Ça, c'est resté longtemps dans le flou. On sait aujourd'hui qu'il a passé la visite médicale, enfin qu'il aurait passé la visite médicale. Après, oui, il y a Meriem, apparemment, c'est vraiment bien engagé. Bon, personnellement, je trouve pas que ça soit forcément une excellente nouvelle, mais ça a l'air vraiment engagé, donc. À voir dans les quelques jours, sinon à part ça, ça reste flou à Lens. Il y a eu Coutadeur aussi, je crois qu'il y a une rumeur, si je dis pas de bêtises. Ça reste des rumeurs, mais rien de bien concret quoi. Comme d'habitude à Lens, quoi, on n'est jamais vraiment bien informé. C'est un peu ce que reprochent les supporters, mais.
Il y avait pas une info comme quoi Tavlaridis allait signer?
Martel a dit. Il a fait un communiqué sur le site off, c'est assez rare d'ailleurs, mais bon, ouais. Il a fermement démenti. Après, bon, c'est pareil, hein, on a toujours du mal, ouais, peut-être.
Mais... c'est tant mieux pour vous, j'ai envie de dire.
Ouais, moi aussi, tu vois, là-dessus, on est d'accord, mais il a démenti, mais c'est pareil. Donc, encore une fois, non seulement il communique pas beaucoup, mais quand il communique, on sait jamais vraiment qui croire. C'est comme pour l'affaire Cuperli, quoi. Ça a vraiment encore été une affaire. Où les supporters ont appris ça du jour au lendemain. Ça reste flou, la communication autour de Lens, quoi.
Ok. Juste un dernier petit mot, parce qu'on n'avait pas pu vraiment en parler dimanche soir. Justement, Grenoble-Lens, une victoire méritée pour vous. Je pense que tu as suivi le match, où un match nul aurait été plus équilibré. On a entendu Bazdarević qui s'est dit vraiment très déçu de ça. Toi, t'en tires quoi comme conclusion en deux minutes?
Bah ils peuvent, je pense quand même qu'ils peuvent être déçus globalement sur le match quoi. Après côté Lensois, je veux pas cracher sur la victoire, mais c'est vrai qu'on a ouvert le score après une bonne domination, mais dès le but d'Eduardo, on a complètement lâché quoi. On a pris le but de Liuboya complètement mérité. Ensuite ça restait équilibré, c'était assez physique, c'était un beau match pour moi, c'était un match de qualité. Et c'est vrai qu'en seconde mi-temps on a marqué rapidement, c'était un coup de pied arrêté. Bon, je sais pas si c'est le point faible de Grenoble, mais on a su marquer assez rapidement en seconde mi-temps sur le coup de pied arrêté. Après, on a fait surtout un bon match défensif, ce qui est assez rare à Lens. Donc, ça a fait plaisir.
Ok, très bien. Et parce que oui, là, c'était vraiment un vrai test pour vous situer un petit peu par rapport à l'autre promu qui est Grenoble. Et effectivement, là, vous avez quand même marqué un grand coup chez eux, comme on l'a dit tout à l'heure. Donc, c'est plutôt de bon augure pour Lens, là, qui commence, on va dire, bien sa saison. Alors, maintenant, comme on a un Marseillais, je suppose qu'on n'a qu'à passer, on n'a qu'à faire d'un bout à l'autre de la France. Et avec toi, Palenka, et aussi avec Roméo, on va parler un petit peu des affaires aujourd'hui à Marseille. Alors, on a des nouvelles, je crois, il me semble, de Lucho, non, Palenka?
Ouais, alors apparemment, Lucho serait prêt, mais Deschamps ne prend pas de risque. Il veut que tout se consolide bien et pas prendre de risque, parce que si jamais il y a une rechute, c'est minimum 3 mois. Donc peut-être qu'il joue un peu l'intox, je sais pas, j'ai encore du mal à cerner un peu les coups et les choix de Deschamps par rapport à Gasset l'année dernière où j'étais à peu près habitué, où je savais à peu près ce qu'il allait faire ou pas. Et là, je sais pas, lui dit que il ne jouera pas dimanche contre Bordeaux. Bon, on verra, mais apparemment on part comme ça, mais il y aura peut-être un coup de bluff, mais même si j'y crois pas. Donc voilà, Lucho apparemment est pratiquement remis, donc c'est déjà une bonne nouvelle. Parce que c'est vrai que même si Abriel a bien tenu son rôle, bon, sauf au dernier match, bien sûr. Mais bon, que Lucho soit là, ça va faire du bien quand même, je pense. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle.
Ok, très bien. Alors justement, je voulais lancer quelques minutes là un petit débat sur Morientes, puisque Marvolo a été très sévère, on se rappelle samedi soir sur lui en parlant justement de sa désinvolture devant les buts. Il a livré une interview à La Provence, je sais plus si c'était hier ou aujourd'hui, où il disait là, où il clamait son amour pour Marseille là. Et toi, qu'est-ce que t'en as pensé? Est-ce que t'as bien aimé les débuts de Morientes ou tu restes encore sur ta faim? T'es plus comme Marvolo? Oui, Marvolo a été vraiment agacé par comment son manque d'efficacité devant les buts. T'en penses quoi, toi, Palenka?
Enfin, le problème, c'est qu'au début de l'interview, enfin, quand on lui pose cette question-là, il dit oui, je suis venu d'abord pour Deschamps et après pour Marseille. Donc bon, ça met déjà les choses un peu plus dans le contexte. Mais bon, moi, personnellement, bon, c'est difficile de juger parce qu'en plus, il a pratiquement pas joué l'an dernier. Il a pas fait de préparation, mais c'est vrai que moi, il m'a pas vraiment convaincu, hein, loin de là même. Moi, je pense que bon, je sais pas. Franchement, j'ai beaucoup de doutes concernant Morientes. Sinon, sur le match de contre Rennes, il a pas fait grand-chose à part sa reprise de volée un petit peu. Bon, je sais pas, il accompagne juste. On a l'impression qu'il fait ça pour faire briller Duchez. Bon, même si Duchez, il sort l'arrêt, je veux pas dire le contraire quand même. Mais bon, j'assure ma fin et bon, on en parlait avec Habib et notre souci, c'est Brandao et Morientes. On verra bien ce que ça va donner, mais pour l'instant, on a quelques hésitations, quoi.
Voilà, justement, Roméo, si tu devais faire un choix, si on table toujours sur l'hypothèse qu'on reste dans ce genre de système-là, tu mettrais qui en avant, vu que toi, pour l'instant, je sais que tu as eu une certaine répulsion au table pour Brandao, tu mettrais quand même... Ah bah oui, je pense que c'est le mot qu'on peut employer, parce que vu ton amour pour lui, tu mettrais quand même Morientes à sa place si tu gardais le même schéma contre Bordeaux?
Avec le même schéma, non, quand même pas. Non, Brandao, il est affreusement mauvais, c'est clair, mais il y a quand même, il est à l'heure actuelle au-dessus de Morientes. Après, faudra voir. Peut-être que Morientes, comme l'a dit Mathieu, peut-être qu'il manque de préparation, peut-être c'est parce qu'il a pas joué l'année dernière, mais pour l'instant, même si Brandao m'enchante pas trop, entre les deux, j'ai l'impression qu'on n'a pas trop le choix, quoi.
Voilà. Ok, ok. Hugo, tu voulais peut-être rajouter quelque chose? C'était peut-être sur Morientes, toi, en tant que supporter monégasque, je suppose.
Un peu. C'est Brandao, Morientes, Ben Arfa. Ils sont pour le moment au niveau, ce qui fait quand même deux tiers de l'attaque marseillaise qui satisfait pas. Et il y a que Nyang qui devant, qui est vraiment au niveau.
Décryptez ce qu'il a dit.
Donc.
Bah, mais en gros, il disait que les deux tiers de l'attaque ne fonctionnaient pas, quoi. Entre Ben Arfa, Brandao et Morientes, c'est que pour lui, avec Nyang qui était satisfaisant pour l'instant. Moi, ça, j'ajouterais Kone quand même, qui a fait de belles entrées, qui a été bon. Donc voilà, après, je sais plus ce qu'il voulait dire.
J'avais une petite stat, Palenka, je sais pas si ça t'inspire quelque chose. Enfin bon, Marseille s'était pas encaissé un but depuis le début du championnat. Tu mets ça plutôt sur le compte d'un Mandanda qui a pas été bon hier ou t'englobes ou t'englobes toute la défense plutôt là?
Bon, ben, déjà samedi on prend un but, mais c'est pas dans le jeu entre guillemets, c'est un coup de pied arrêté, donc un péno. Donc bon, malgré tout, je pense qu'on allait se prendre un but parce que vu les occasions qu'il y a eu Rennes, et bon, notre défense était complètement à la ramasse. Mais un truc de malade, surtout en première mi-temps, Diawara était vraiment à l'ouest. Enze, Jayan, il a à peu près tout fait pour rester à peu près correct. Donc bon, je sais pas. Je sais pas, la complémentarité là comme ça on la voit pas tout de suite, même s'il y a un gaucher et un droitier, mais même quoi, c'est un petit peu je sais pas quoi, on avait des doutes concernant surtout Heinze, enfin moi personnellement, et on avait peur face à des attaquants véloces et rapides. Là entre Jayan et Bangoura on a été servi, donc je sais pas, peut-être que alors bon on peut mettre en avant le manque d'automatisme, mais je sais pas, de toute façon toute l'équipe en première mi-temps était vraiment à l'ouest, donc bon, quand ça défend, ça commence plus haut, quoi. Donc il faut pas incriminer seulement la défense, même si à un contre un ils ont été minables, quoi. Mais bon, ouais, pas de but pour l'instant, ouais, pour l'instant oui, pour l'instant pas de but, mais voilà, dimanche on a un gros test contre Bordeaux et on saura plus déjà dimanche soir, quoi.
Oui, parce qu'on était quand même assez satisfaits, enfin les supporters étaient assez satisfaits de la défense à Marseille, là, depuis le début du championnat, invincible, c'était la meilleure défense avec Lyon. Et puis là, quand même, ça a été un des points faibles. Marvolo a souligné comment les quelques erreurs de Mandanda, il a souligné aussi le match vraiment pas exceptionnel de Heinze. Donc là, c'est vrai que ça peut être quelque chose qui peut vous inquiéter en tant que supporter. Hein. Ça y est, justement, parce que tu nous en as parlé. Dimanche, c'est Bordeaux qui va se présenter. Alors, on va justement passer à Bordeaux avec Yac. Alors, Bordeaux qui continue évidemment son bonhomme de chemin. 4-0, c'est ça, contre 4-0 contre Nice. Un tout petit mot, Yac, sur ce match-là.
Sur ce match-là, le 4-0, c'est surtout pour les stats, quoi. Dans le jeu, c'était pas non plus une leçon. Alors moi, ce qui m'énerve un petit peu, c'est ce schéma de jeu, ce losange là. Alors d'une part, dans les phases d'attaque, on a du mal à trouver du monde pour les premières relances, pour partir de la défense et pour arriver jusqu'au milieu offensif. Donc on a un seul joueur, Diarra, qui joue seul en 6. Donc derrière, Gourcuff est obligé de descendre à son niveau. Donc c'est quasiment un deuxième 6 lors des phases d'attaque, surtout que les adversaires se mettent quasiment tous dans leur milieu de terrain, donc c'est très très regroupé, c'est pas évident. Donc voilà, je suis pas convaincu par ce schéma de jeu. Je le trouve vraiment merdique, quoi. Gourcuff, il est beaucoup plus efficace quand il est plus haut, et dans cette configuration de jeu, il est moyennement utile. Je pense qu'on pourrait mettre un autre joueur à cette place-là. Ouais, bon, après, pour des équipes comme Nice, ça peut passer, la preuve. Mais je pense que ça passera pas toujours, quoi.
Un petit mot peut-être sur Gourcuff, qui, je vois une stat là, 55% de vos buts là depuis, je suppose, la saison dernière. Il a encore mis un doublé hier. Bon, le premier but est un peu chanceux. Le second, par contre, est magnifique. Tu voudrais, je sais pas, peut-être dire un petit mot. Est-ce que tu serais vraiment inquiet si vous le perdiez en cours de saison, ou tu le vois pas non plus indispensable comme dans certaines équipes, un joueur comme Niang par exemple à Marseille, qui paraît vraiment indispensable, tu le vois quand même. Enfin, est-ce que tu verrais un Bordeaux sans lui sur certaines phases de la saison?
Moyen. Franchement, Gourcuff est assez indispensable, même quand il est pas très bon comme hier. Son jeu fait que, dans tous les cas, il organise assez bien le jeu, même si c'est pas très brillant. Il est intéressant dans ses contrôles, dans son orientation, dès qu'il a la balle au pied, dans ses passes. Donc même si c'est pas extraordinaire, je pense qu'on n'a pas de joueur capable de faire la même chose s'il est pas là, quoi. Donc ouais, très difficile s'il est pas là, même si on pourrait éventuellement adopter un autre schéma de jeu, jouer autrement. Ça pourrait passer, mais je pense quand même que ce serait pas du même niveau, quoi, niveau collectif.
Ouais. Donc là, vous êtes sur un rythme d'enfer, hein. 3 victoires, 11 buts inscrits, 3 encaissés, vous commencez à prendre un sacré rythme. Alors on va voir, là encore, c'est comme pour Marseille, là votre premier gros test justement, c'est l'OM dimanche soir. On parlait justement là de l'animation offensive, peut-être sans Gourcuff, si vous venez à tester. L'animation offensive bordelaise, c'est un petit peu le point d'interrogation en ce moment. Il y en a qui s'interrogent. Alors, on va d'abord s'interroger, avant de parler du problème Kavenaghi, sur si on peut appeler ça un problème Chamakh. Enfin, moi, je trouve que son attitude n'a pas été forcément très correcte. Est-ce que tu pourrais nous livrer peut-être juste ton point de vue par rapport à ses déclarations, le fait qu'il veuille s'en aller, puis qu'il reste parce qu'il n'avait pas de proposition qui était à la hauteur de ses espérances. Toi, tu vois pas ça comme... Enfin, il a pas sali l'image du club de Bordeaux, tu cautionnes un peu ses actes.
Ses déclarations complètement ridicules. Mais il s'est humilié tout l'été. Un coup, il annonce en cas de titre, quoi qu'il arrive, je pars, alors qu'il est d'accord avec aucun club. C'est pas dit que voilà, que tout le monde se batte pour lui. 15 jours après, il annonce qu'il reste. Apparemment Morpilo, apparemment non. Enfin, bref. Un mois après, il veut partir à Sunderland parce que c'est le seul club qui s'intéresse à lui et il veut absolument partir. Le mois d'après, c'est la même avec West Ham. Et finalement, il part pas. Donc, bon, dans sa tête, il est complètement paumé, ce type. Mais bon, au-delà de ça, sur le terrain, à chaque fois qu'il joue, ça se retranscrit pas trop, malgré ce qu'on entend. Donc, pour moi, c'est pas vraiment un problème, ces déclarations. Mais c'est clair que c'est ridicule. Complètement ridicule.
Tu trouves que t'as ridiculise plus le joueur que le club, toi?
Ah ouais, ouais. Ah ouais, le joueur s'est ridiculisé, ça c'est clair.
D'accord. Marvolo?
Après, le club, bon, non, je vois pas en quoi il serait ridiculisé. Non, pas spécialement.
Enfin, dans le bal des faux culs, Trio, c'est celui qui a la plume dans le cul et qui est en haut du chariot, hein. Il est très fort aussi. Parce que moi, je veux bien être d'accord avec toi sur le petit côté salope qu'il a, Schimmer, à dire oui, je veux partir pour le Big Four tout de suite, l'arrogance qui vient avec. Parce qu'on parle beaucoup de Bordeaux, mais on parle pas de l'équipe nationale qui snob depuis quelques temps. Parce que, oh là là, je suis blessé, mais en fait, il est à Miami. Et puis, non, je veux pas jouer parce que j'aime pas Roger Lemaire. Ça, c'est autre chose. Mais Trio, c'est une belle petite salope aussi. Quand tu donnes ton accord au joueur, tu n'as pas à lui dire non, tu vas pas là-bas. De quel droit il se permet de faire ce genre de truc? Alors, du coup, ça fausse complètement toute la lecture du dossier. Parce qu'on a l'impression que, du coup, le seul coupable, c'est Schmar. Alors oui, il a une part de responsabilité, il a même une belle part de responsabilité. Et Métrio et Laurent Blanc, ils n'ont pas à voir ce genre de déclaration-là. S'il a envie de se barrer à Sunderland, s'il a envie de cramer sa carrière, qu'est-ce que ça peut vous foutre? Et puis n'oubliez pas un truc simple. Alors Sunderland, c'est peut-être un club de merde, mais à Sunderland, si tu joues bien 6 mois, c'est Manchester qui arrive. Parce qu'on sait très bien comment ça se passe les clubs anglais. Ils ne connaissent que le joueur de leur championnat et ça va rapporter pépette. C'est pour ça que, et d'ailleurs c'est pour ça que sur les derniers temps, ils négocient avec la fameuse option de pourcentage à la revente, parce qu'ils savent très bien, ils savent très bien que s'il part et s'il explose là-bas, il y a moyen de récupérer de l'argent.
Mais tu as lu ou entendu quelque chose, Trio ou Blanc, disant qu'il le laisserait partir dans tous les cas, quel que soit le club anglais? Moi, j'ai jamais entendu ça.
Et quand il arrête pas de parler de gentleman agreement, et d'ailleurs même plus au-delà de ça, s'ils ont négocié récemment avec West Ham, qu'est-ce que ça veut dire?
Je sais pas, mais...
Est-ce qu'on dit à ce qu'on fait? C'est pas parce que Correa a dit que maintenant ça allait être football champagne à Nancy qu'on va se régaler, hein. Parce que moi,
ah, c'est pas ça.
On va avoir des problèmes encore.
Maintenant, au bout de 4 jours, je commence à ne plus en avoir rien à branler. Alors si elle est... Bimbo et Tinky Winky là, ils ont décidé de me péter les couilles, ça c'est autre chose. Mais c'est pas parce que l'autre là, il s'amuse à dire que maintenant ça va être le football champagne que c'est fait. Maintenant ils ont perdu ce week-end, il suffit qu'ils perdent une autre fois et ils ressortent la truelle et ça va être comme ça toute l'année. Donc il y a au bout d'un moment, il y a pas que les paroles qui comptent. Après moi je te le dis, Schmarck, j'ai beaucoup plus de raisons que toi même de le détester parce que à la limite tu me parles de Bordeaux, c'est un club, mais lui il fait sa pute avec l'équipe nationale. C'est pire. Je peux même pas imaginer qu'un mec décide, qu'il a décidé tout simplement de snobber le match au Cameroun, qui était le
tu
match.
Tu peux rappeler les faits, s'il te plaît, Marvolo, parce qu'on n'était pas tous, on n'est pas tous au courant.
Bah en gros, une semaine après avoir joué contre Caen lors de la dernière journée, il arrivait en déclarant oui, je suis blessé, je peux pas jouer, mais je viens pas déclarer ma blessure. Donc du coup, en gros, c'est j'ai pas envie de jouer. Puis, ensuite, il fait, oui, mais en fait, c'est Roger Lemaire, il a pas voulu, quand j'ai dit que je venais pas, il a pas insisté pour que je vienne. Faut arrêter, quoi. Qu'est-ce que c'est que cette mentalité de merde?
Ouais, Yac, tu voulais peut-être répondre à Marvolo, ou tu restes quand même sur sa longueur d'onde?
Ouais, non, je sais pas. On parlait de Trio et de Blanc qui sont apparemment, qui se contredisent. Alors moi, comme je disais, j'ai jamais entendu dire que s'il y avait une proposition de Sunderland ou quelque chose comme ça, ce serait ok et que après ils ont changé d'avis. Donc voilà, je vois pas trop où tu veux en venir, Marvolo.
Alors, est-ce qu'ils ont négocié avec des clubs anglais cette intersaison?
Ouais.
Ça veut dire quoi ça pour toi?
Ça veut dire qu'ils essaient de...
Je pense franchement que t'es pas naïf. Avec tout le bien que j'ai entendu de toi, je me doute que t'es pas aussi naïf, quoi. Tu sais très bien que ça veut dire qu'ils voulaient le vendre.
Et je pense qu'ils t'attendaient sur
évidemment qu'ils voulaient le vendre, ils voulaient partir. Mais c'est pas la question.
Tu vois, je te dis, s'il négocie un prix, s'il dit je veux vendre un tel à ce prix-là, c'est qu'ils veulent le vendre.
Ouais.
C'est tout. Moi, je te dis, après, si jamais il y a eu un problème au niveau de l'offre qui a pas été suffisante, même si, bon, Sunderland, il disait qu'il voulait mettre 13 millions.
Ouais, ça, on n'a jamais su si c'était vrai, cette offre.
Ah ouais, le problème, c'est que tu le sauras jamais, parce que si tu veux, dans un sens comme dans l'autre, ça n'avantage pas Bordeaux. Parce que ça n'avantage pas Bordeaux d'un côté. S'ils l'ont vraiment eu, qu'ils l'ont refusé, ça les avantage pas, parce que maintenant, c'est plus difficile de dire, oui, j'ai refusé une offre de 13 millions, parce que tu passes pour un con, parce que maintenant, tu négocies à 7. Et s'ils l'ont vraiment eu, et qu'ils n'ont pas négocié, et qu'ils l'ont refusé parce que c'était insuffisant, ben, tu passes encore pour un con, quoi, au final. Donc, c'est ça le problème. On le saura jamais, ça.
Moi, je suis absolument persuadé que c'était des conneries, cette histoire d'offre. C'était même 14 millions, je crois. Parce que, bon, un mois après, ils proposent 6 millions. Ils font une autre offre à 7, alors qu'ils en ont déjà fait une à 14 un mois avant. Voilà, quoi. Après, quand Rio... Et je crois que c'était surtout Blanc qui disait qu'il mettrait son veto pour qu'il parte à Sunderland. On parlait d'offres justement à 6-7 millions. Donc voilà quoi. Moi je vois pas en quoi Blanc et Trio sont coupables sur ce coup-là. Non seulement l'offre était insuffisante par rapport à ce qu'ils espéraient. À ça tu rajoutes le fait que c'est Sunderland. Voilà quoi, y a rien d'autre à dire à mon avis. Hein. Un refus et c'est normal quoi.
Pourquoi? Parce que c'est Sunderland, c'est pas bon.
Parce que c'est un club de merde.
Et alors, qu'est-ce que ça peut vous foutre?
Bah, ça peut nous foutre que on a moyen de convaincre Chamac de rester, parce que son autre alternative, c'est d'aller dans un club de merde, Sunderland. Donc, même si, comme je l'ai dit, il est complètement à l'ouest dans sa tête, il est pas stable du tout mentalement. Je pense que ça vaut le coup de discuter à ce moment-là. Si ça avait été Arsenal, peut-être que ça aurait été différent, probablement même. Et là, Sunderland,
non.
Comment?
Arsenal, ils ont pas proposé 7 ou 8 millions, il me semble, non?
Ouais, exact. Mais là, ils n'ont pas dit non parce que c'est Arsenal. Ils ont dit non parce que l'offre est insuffisante.
Moi, ouais, c'est là où on voyait... Le problème,
quand un club dit je ne veux pas le vendre parce que c'est un club du même championnat, j'arrive plus ou moins à comprendre. Mais je ne vends pas le club parce que je le vends pas. Club de... Je trouve ça moyen. Quoi.
Le problème là avec Arsenal, c'est que comment Arsenal avait proposé, Yac, tu me reprends si je me trompe, mais ils avaient proposé une offre insuffisante apparemment parce que. Là, comme disait Marvolo tout à l'heure, la Ligue 1 et plus généralement tous les championnats un peu à l'extérieur de la Première Ligue sont très peu suivis et on s'était fait une fausse idée Arsenal de la valeur de Chamac, non, Yac?
Ouais, c'est un peu ça, c'est-à-dire que quand tu vois que Lyon propose je sais pas combien, c'était 17 millions des brouettes pour Rémy. Quand tu vois Gomis, pareil, 15 millions, et que tu vois que t'as des clubs anglais qui ont des sous et qui proposent 8 ou 9 pour Chamac, il y a de quoi être frustré, quoi. Donc ça se comprend à ce niveau-là.
Voilà. Moi, ouais. Je comprends que Bordeaux veulent en tirer le maximum d'argent, mais je crois qu'on oublie quand même que là c'est un transfert européen, c'est-à-dire France-Angleterre. C'est pas Lille qui va acheter à Lyon, ou enfin Lyon qui va acheter à Lille, ou un truc comme ça. C'est-à-dire qu'à Chamac, il lui restait un an de contrat, donc c'était sûr, c'était clair et net qu'il allait pas avoir 10, 12 ou même 15 millions de transferts, ça c'était sûr. Hein.
Là par contre, où je suis juste pas d'accord avec ce qu'avait dit Arnaud, c'est que l'argument, ils ne connaissent pas le championnat français, aurait marché avec beaucoup de clubs par Arsenal.
Par à cause de Wenger.
C'est exactement quelle est la valeur de Chamac. Ça, pour le coup, on peut le dire, il a essayé d'enculer Bordeaux. Il a vraiment essayé de les enculer. Parce qu'il a quand même pris 15 millions Eduardo, ou 14, il y a deux saisons. Il a pris Vermeulen 15 millions.
Alors Vermeulen, c'est vrai que ça fait
Vermeulen, on va pas me raconter d'histoire, on va attendre de voir ce qu'il vaut contre un gros club. Parce que c'est pas parce qu'il a joué contre le fantôme d'Everton que c'est la nouvelle tuerie de la Première Ligue. Mais non, juste sur ce point-là, je pense pas. Après, évidemment, dès que c'est dans un autre championnat... On pense tout de suite que c'est de la merde.
Hugo, tu voulais peut-être dire un petit mot justement sur le cas Chamac, on en parlait là, comme il y a eu pas mal de réactions.
Bah ouais, Sunderland avait acheté Darren Bent. à 14 millions d'euros. Et à mon avis, ces 14 millions d'euros là, si c'était pas sur Bent, c'était sur Chamac. Sunderland avait largement les moyens de se payer Chamac, et puis voilà.
En parlant de Sunderland, justement, effectivement, et là on va parler d'un Français, vous me le rappelez en début d'émission, c'est vrai que l'info du jour, enfin c'est pas Sunderland, excusez-moi, c'est West Ham, on en parlait tout à l'heure puisque Chamac avait failli aller là-bas pendant l'été, c'est effectivement Faubert qui pourrait être près du Milan AC. Bon, quand on voit qu'il a été prêté au Real, on peut s'attendre à tout, puis quand on voit les conneries que sont en train de faire le Milan avec son recrutement, donc ça pourrait effectivement être, parce qu'il y a eu un échec des Silvestri pour le Milan AC pour le côté droit, donc ça pourrait être une recrue effectivement potentielle. Là c'était pour dire un petit mot des Français à l'étranger.
Faubert est un bon agent.
Comment?
Faubert a un très bon agent.
Ah oui, ça on peut le dire là, parce que arriver à faire aller un joueur comme ça dans les plus grands clubs européens, il n'y en a pas beaucoup qui réussiraient à faire ça.
Bravo, ah ouais, c'est un génie le type. Hein. Parce que tu vois Faubert techniquement, ça fait peur. Hein.
Ah oui,
j'ai rarement vu un gorille. Pas que techniquement, hein. Je sais pas si vous l'avez vu au Real Madrid, mais il était gras comme un goret.
Il dormait sur le banc, non?
En plus, ouais.
Ouais. Ça c'était le must du ridicule, on l'a trouvé pendant Villarreal. Enfin, Villarreal Real Madrid, et il était là avec un Twix ou je sais pas quoi à la main, il dormait. Il a quand même osé leur dire non, je ne suis pas gros, je suis fort.
D'accord. Ah, il a raison, ils sont confortables les bancs là-bas.
Même ouais, pas mais les bancs, d'ailleurs. Ouais, mais bon, quoi, je sais pas si il a joué contre Bilbao 20-25 minutes, il a été ridicule. Alors que Bilbao, c'est une équipe contre qui Huntelaar a marqué 2 buts, donc ça montre un peu le niveau. Et ensuite, je ne sais plus contre qui il a encore joué. Il a joué 2 matchs seulement, mais autant dire que quand tu vois un peu le bordel qu'il y a eu à son arrivée, où beaucoup disaient voilà, c'est lui qui était le successeur de Zidane en sélection, puisqu'il avait marqué le fameux but là contre la Bosnie ou la Serbie ou bref, Tadjikistan, ce genre de pays de merde. Et comme il avait le numéro 10 sur ce match-là, et bien, ils ont dit que c'était le successeur de Zidane. Donc autant vous dire.
Ouais, un bon petit clin d'œil d'ironie là. Je pense que sur le thème là, Chamac, on en a passé pas mal de temps. Il y avait quelques petites autres infos. Est-ce qu'il y a des blessés pour le match, Yac, pour le match contre Marseille à Bordeaux ou non, pour l'instant tout le monde devrait être là.
Plasil, toujours blessé, toujours incertain. On n'a pas de nouvelles depuis.
Pas de nouvelles, bonne nouvelle. Hein.
Il était pas dans le groupe. Et là, il a. Non, là, c'est pas aujourd'hui, mais a priori, il devrait pas reprendre l'entraînement demain non plus. Alors.
On va passer maintenant à notre club. Alors, personne ce soir d'expérience pour l'Olympique Lyonnais, mais je veux évidemment qu'on en parle. L'Olympique Lyonnais qui affronte mercredi pré-qualification, donc retour de la Ligue des Champions en préliminaire Anderlecht après avoir battu 5-1. Donc je rappelle que Grosso sera absent, tout comme François Clerc, Ederson et Govou. Tout le reste est convoqué, Lisandro sera là. Lyon normalement devrait passer sans trop de problèmes. Juste là, on va parvenir sur le match de mercredi, mais plus généralement, quand on voit, on se rappelle de Rémi qui nous disait samedi soir que Lyon n'avait pas livré un grand match, mais avait quand même réussi à gagner 3-0. Marvolo, est-ce que tu penses que Lyon commence à retrouver un rythme de champion qui lui permettrait de gagner des matchs avec des scores quand même assez larges et en engrangeant les points, ce qui lui permettrait de commencer à pouvoir viser la première place sans encombre, quoi.
Pourquoi? Parce qu'ils viennent de battre Auxerre et Anderlecht.
Voilà. Bah.
Non. Je crois qu'on va falloir attendre un peu plus. Voilà quoi. Faut arrêter de déconner quand tu vois que. Il y a par exemple Marseille qui a déjà joué Rennes et Lille. Ils ont au moins eu des. C'est peut-être pas encore des super super chocs, mais au moins ils ont eu l'occasion d'être testés. Nous, on n'a toujours pas eu l'occasion d'être testés quoi. Ils ont joué Le Mans, Valenciennes, Auxerre et Anderlecht. Je crois c'est que des équipes à 0 points.
Oui, on est d'accord, mais est-ce que tu trouves pas que dans l'approche du truc, dans la mentalité, on sait que l'année dernière, Lyon avait perdu pas mal d'équipes à domicile, il s'en était beaucoup plein, contre des petites équipes, il n'y a pas eu un progrès là-dessus, moi c'est peut-être moi qui pensais ça, Palenka, t'as pas un avis sur les concurrents lyonnais cette saison au titre?
Si, bah, Lyon comme chaque année, quoi. Franchement, voilà. Là, ils ont fait un match à Auxerre où ils ont un peu subi en début de match. Il y a eu des pas mal l'équipe qui était pas mal remaniée. Ils ont quand même mis 3 buts. Bon, voilà, ils sont là, quoi. Contre Anderlecht, même si c'est une équipe, on va dire de bas niveau, hein, faut dire ce qui est. Ils ont quand même leur a mis une pâtée. Bon, demain, ça risque d'être pareil. Sauf si Puel, ouais. Sauf si Puel fait vraiment tourner. Mais bon, voilà, peut-être que le fait d'être qualifié en Ligue des Champions, d'être sûr d'être qualifié, bon, même si Anderlecht, voilà, comme je l'ai dit, c'est une équipe un peu moisie, mais bon, peut-être que ça va leur enlever un poids et qu'ils seront dedans et que pour le championnat ça va rouler. Et déjà, bon, voilà, on peut dire ce qu'on veut, mais ils ont fait un bon recrutement dans l'ensemble. Bon, on a peut-être un petit doute sur la défense, mais bon, je pense que ça va rouler pour eux, quoi.
Ok, très bien. Juste un petit mot là ce soir. Le dirigeant lyonnais était à Bruxelles là, avec l'équipe pour en plus régler un petit problème au niveau de leur sponsor qu'ils ont pas pu arborer là, un site de paris en ligne. Bref, ils pourront normalement le mettre sur leur maillot demain. Un petit mot aussi également sur Anthony Réveillère. Comment?
Logique vu que le match se déroule à l'étranger.
Voilà. Non, mais aussi, il faut savoir un truc, si Lyon fait autant un flanc avec son sponsor, même pendant la première journée où soi-disant il est menacé de pas jouer ou je sais pas quoi, c'est simplement, ils savent très bien qu'ils ont pas le droit, mais c'est pour faire du buzz et pour qu'on parle de BetClic en fait, voilà, c'est juste ça quoi.
Oui, c'est peut-être, oui, effectivement, ça peut être une sous-condition, on va dire pas officielle, mise par BetClic et ça permet en même temps de faire un gros ménage par rapport à ça. Oui, Hugo, tu voulais rajouter?
Contre Anderlecht, Puel a eu la très bonne idée hein, de mettre tout l'allant avec Kastrum, ça avait très bien fonctionné. Bon, après, j'ai pas compris pourquoi il avait pas fait ça contre.
En préservant peut-être justement Kastrum pour le match retour, je pense qu'il a voulu peut-être faire ça pour. Enfin, qu'il a pas voulu mettre Kastrum et tout l'allant à nouveau contre Auxerre pour préserver. Pour préserver Kallström. Un petit mot sur Réveillère qui s'est dit prêt à finir à Lyon. Alors là, je sens que Marvolo va se déchaîner, mais ça doit être évidemment parce qu'il n'a pas de proposition ailleurs. Un joueur, ils ont eu souvent le problème des arrières droits l'an passé, Lyon. On a attendu souvent une recrue. Est-ce que, bah tiens, Roméo, je vais te poser la question. Est-ce que tu penses que Réveillère à la trempe d'un arrière droit d'une équipe comme Lyon qui voudrait viser les quarts ou les demi-finales de Ligue des Champions et le titre chaque saison?
T'es vraiment un salaud, hein.
Bah, je savais que cette question là t'intéresse.
Bah écoute, mais...
depuis quand il a le niveau, lui?
Non,
le niveau de rien.
Catégorique, non, je suis désolé. Parce que Réveillère, c'est peut-être pas évidemment un foot de guerre, mais ça n'empêche que ça reste un joueur correct qui a tenu son rang. Je me rappelle, il avait fait un match, bah, c'est comme Claire, on lui a souvent tapé dessus, mais ils avaient fait
un. Contre l'Uznac en CFA2, je m'en rappelle excellent.
Mais contre le Real, quand ils étaient tombés dans la poule du Real.
Contre la Roma aussi.
Contre la Roma, ouais.
Contre Chini, un match pas mal.
Le Real, tu es en train de me dire qu'il a fait un bon match contre une équipe qui se fait toujours latter en 8ème de finale. Qu'est-ce que tu me dis? Ils ont joué contre une équipe de leur niveau et ils ont été nuls. Ben bravo, bravo. Mais tu te rends compte, tu es en train de dire un joueur correct, c'est tes mots. Ensuite, tu parles de demi-finale de Ligue des Champions.
Oui, non, mais évidemment, mais.
Réveillère, il est même pas. Il doit être difficilement dans les 5 meilleurs latéraux, quoi. De Ligue 1.
Difficilement.
T'as au moins Fanny qui est meilleur, tu as Chalmé qui est meilleur, et tu peux en trouver d'autres. Hein. Mais, bon. On sait très bien que s'il est en équipe de France, c'est parce que Domenech adore les Lyonnais.
Il n'est pas en équipe de France, hein.
Ouais, non, je dis qu'il a été en équipe de France. Ah. C'est parce qu'il adore les Lyonnais, c'est tout.
Bah, je sais pas, moi je pensais. Je pensais. Tu vois donc un recrutement, si Lyon devait encore se concentrer pour recruter, tu vois, c'est ce côté-là qui pêche encore, plus que le côté de Grosso. Et enfin, et Sissoko, on va dire.
Bah, ils ont recruté Sissoko, ils vont pas recruter un
latéral gauche supplémentaire, je pense.
Non.
Normalement non, c'est un gars qui a la
touche à gauche. Enfin, il peut peut-être, mais il fera un match de merde. tout le monde peut. Brando peut jouer au foot, hein, donc tout est possible.
Bon, très bien. Non, mais je pensais parce que comme maintenant les arrières droits sont assez polyvalents, oui. Ils aiment bien jouer sur les deux côtés, je savais pas.
Non, je pense pas.
Apparemment, Grosso va partir là. Ce que j'ai lu dernièrement,
Ouais, bah c'est toujours la Juve qui est sur lui. Alors je sais pas si ça peut se confirmer.
Il y a le Zénith aussi, mais apparemment lui il voudrait pas y aller.
Ouais, il voudrait retourner au pays, donc je pense que les dirigeants de la Juve sont prêts à accueillir un arrière gauche. Alors lui, on sait pas vraiment, mais bon, ça peut être un bien pour lui et pour l'équipe des Bianconeri, parce que ils ont pas vraiment quelqu'un un poste fixe chez eux. Ils ont Molinaro qui est pas un super joueur, donc je pense que Gomis revenir en Italie serait la meilleure chose.
Grosso plutôt, hein. Gomis.
pardon, c'est parce que j'ai Gomis sous les yeux et j'ai dit Gomis. Justement.
Mais enfin, c'est quand même une belle croûte encore des Lyonnais, quoi. Ils sont en train de virer un champion du monde pour récupérer un mec qui a joué 6 mois
en pro. Ah bah là, on est d'accord.
Et puis Gomis, ils savent pas l'utiliser, tout simplement.
Oui, bah sûrement, oui. Ça a été souvent le problème avec les arrières latéraux comme lui, un peu comme Diego Placente. Tu nous en avais souvent parlé l'année dernière, Marvolo avec Bordeaux.
Placente, son problème, c'est qu'il était moins bon quand il arrivait à Bordeaux. C'est tout. Il a mal vieilli, tout simplement. Et puis, il a Trimoulinas qui, devant lui, il est quand même au-dessus, là, actuellement. Mais Grosso, est-ce qu'il est en dessous de Sissoko? Moi, je suis pas d'accord. Hein. Pas du tout, même.
Ouais, t'es même plus dans l'optique qui serait meilleur, quoi.
Ah, mais largement. Largement.
Ok, très bien. Un mot sur Gomis maintenant, comme on n'en a pas parlé, on n'avait pas parlé de Saint-Etienne, ça va nous permettre de raccrocher un peu avec eux. Gomis qui s'est dit, enfin là, qui commence à embrasser le maillot de Lyon, qui se dit totalement, enfin, qui dit qu'il a totalement acquis le public lyonnais. T'en penses quoi, ces notes, toi, de son attitude par rapport au Stéphanois, si t'étais un supporter, si tu voyais un gars comme ça faire ce qu'il a fait. Bon, tu vois, t'as connu Heinze là cet été. T'en penses quoi de l'attitude de Gomis?
Tu peux répéter la question?
Ben, un petit peu son côté là, qu'il est devenu totalement lyonnais en quelques semaines. Alors que, oui, voilà, il a mis juste 4 buts et puis il a une ovation à Gerland pour lui. Je sais pas, t'en penses quoi de tout ça là? Je trouve que c'est un peu grotesque.
Il joue bien, pourquoi il l'ovationnerait pas? Je pense que c'est différent de Gabriel Heinze par rapport à Paris et Marseille. Je crois que Gomis, il incarnait pas non plus le Stéphanois de cœur ou le vert, voilà quoi. Donc, son transfert à Lyon, ça m'a pas choqué, ils ont pris. Maintenant, il marque, je comprends plus le mec qui l'acclame, voilà.
Ça n'empêche pas, à mon avis, d'avoir un bel accueil à jouer
voilà. Richard. Et ça n'empêche pas non plus que s'il se plante, il va se faire bien siffler par le public lyonnais aussi.
Ouais.
Là, pour le coup, Arnaud, tu vas arrêter avec ton délire de Daniel Riolo. Là, pour le coup, tu m'as vraiment bien énervé. Mais arrête d'écouter cette daube. C'est une merde dès qu'il s'agit du football étranger. Il ne fait absolument rien. Heinze, il ne signe pas à Marseille pour enculer Paris. Heinze, il signe à Marseille parce qu'il n'y avait aucun
club dessus. Je n'ai pas dit ça, Marvolo.
Il n'y avait aucun club dessus. Donc, une trahison, certes. Et puis le délire, là, de « il a craché sur le maillot ». J'en ai rien à foutre de sa parole. C'est pas parce que Daniel Riolo dit qu'il a craché que c'est vrai. Il passe son temps à mentir tout le temps. Il disait à
Jean-Pierre que c'était
qu'elle est champion de France, et puis là, depuis quelques temps, il nous fait « Mais moi, j'ai du Bordeaux, blu, avec son petit
poids de
satisfaction. » C'est horrible, ce délire avec Heinze. Faut arrêter avec ce truc. Si le mec, il diminue son salaire de quasiment par deux, il le divise par deux, c'est qu'il était vraiment dans la merde. Ça, il faut le comprendre. Alors, s'il signe à Marseille, c'est qu'il y avait personne d'autre, mais vraiment personne d'autre. Alors après quoi? Pour faire plaisir aux supporters parisiens, il arrête le foot.
Mais non, mais...
Il y a un moment où il faut voir les choses comme elles sont. À Madrid, il avait aucune chance de jouer, mais aucune chance de jouer. Tu t'imagines qu'à Madrid, ils font tout pour tester Drenthe arrière-gauche. C'est te montrer un petit peu, à la fin de saison, comment il était, dans quelle situation il était à Heinze.
Le départ de Cannavaro, ça aurait peut-être pu lui permettre de rester une saison, même au troisième choix, au quatrième.
Ils ont pris Albiol à 15 millions et ils ont fait retour de prêt de Garay qu'ils avaient acheté l'an passé à 10 millions. En sachant que les deux, le plus vieux des deux, Albiol doit avoir 23 ans. Il n'avait aucune chance de jouer. Il y avait aussi Pepe, mais il n'avait aucune chance de jouer. Même Metzelder lui était préféré. Le souci, c'était tout simplement ça. Il n'avait aucune chance de jouer. Donc forcément, c'est pas qu'il a choisi Marseille. Il n'avait que Marseille.
Moi je te le dis, si il avait signé à Marseille parce qu'il avait le choix en deux équipes, là pour le coup oui, j'aurais rejoint les Parisiens en disant que c'est de la merde sa façon de voir les choses. C'est pour ça que je dis avec Gomis, je vois pas pourquoi c'est différent. Je vois pas pourquoi Gomis, c'est moins grave. Gomis, il avait le choix de rester à Saint-Étienne. Je vous rappelle juste que Gomis, il y a en mars ou avril, pendant que Saint-Étienne jouait à la relégation, il était là en train de faire le kéké des plages à Téléfoot, en train de dire moi je me prépare pour l'Angleterre, je suis déjà parti. Il n'en avait rien à foutre de Saint-Étienne. Alors pour le coup, qui insulte le plus son ancien club? Moi je suis pas d'accord, je trouve que Heinze, on le diabolise beaucoup trop. Alors certes c'est un joueur de merde, ça c'est autre chose, ça il le montre et c'est prouvé sur le terrain, mais
c'est devenu un joueur de merde.
C'est devenu un joueur de merde, tout à fait. Mais dire que c'est devenu le symbole des salopes au foot, je trouve ça horrible. Mais okay. Horrible, parce que c'est franchement très dur et déplacé, et tout ça parce que Daniel Riolo est parisien, c'est tout. Faut pas se chercher d'histoire plus longtemps. Voilà. Maintenant, j'espère qu'on va pas entendre encore une fois ce délire-là, parce que.
Ouais, je crois que ton cœur tiendra pas deux fois.
Cela n'empêche que ça reste un menteur.
Pourquoi?
Quand il fait des déclarations, il y a encore quelques années, où il dit, moi, Marseille, je connais pas, je pourrais jamais jouer à Marseille, il y a que Paris, si je reviens en Ligue 1, c'est que pour Paris, mais jamais Marseille, je préfère, enfin, voilà.
Il a dit ça?
Bien sûr, il a dit,
je veux bien aussi une petite citation.
Franchement, j'aimerais bien des sources, parce que moi, ce que j'entends dire, Heinze, c'est dire, alors pour le coup, là où je te rejoins un peu, c'est qu'Heinze, il disait effectivement, Paris, c'est un club que j'adore, c'est un club où j'aimerais revenir jouer, mais bon, je bouge pas le cul pour l'avoir.
Fernandez, je me rappelle très bien, je peux trop sortir sur le
club. Ah bon, tu m'entends mal en fait.
Tu m'entends?
On t'entend plus. Allô, salut Flo.
Allô.
Non, on t'entend.
Sur RMC, je me calme parce que je monte rapidement en pression avec MD. Il a dit clairement, je ne connais pas l'Olympique de Marseille. Si je dois revenir en Ligue 1, c'est pour Paris. Je ne pourrai jamais revenir en Ligue 1 pour un autre club que le Paris Saint-Germain. Il l'a dit. Et
je te demande juste des sources, moi, c'est tout. J'aimerais bien avoir une source. Parce que les on dit, tu vois, ça me...
Je vais te retrouver ça. Et après ça, je m'en fous qu'il a pas d'autre club. Il passe juste pour un menteur. Il a décidé de rejoindre Marseille, c'est tout. Il a menti.
Donc alors, si je comprends bien, pour vous, parce qu'il a dit ça... Il doit arrêter, donc cet été, il décide d'arrêter le foot.
Non, c'est pas ça, c'est juste qu'il passe pour un mec qui a pas de parole, et tu peux donc, à partir de ce moment-là, tu peux comprendre les Parisiens qui l'insultent et qui...
Mais en même temps, là, tu es en train de me dire ça, mais qu'est-ce qui est le plus important? Est-ce que, pour toi, tu trouves que faire plaisir à des kékés qui apparemment voulaient pas se bouger le cul pour venir te chercher, c'est plus important que sa carrière et sa famille? Bah. Moi, je suis absolument pas d'accord. Absolument pas. Il y a une histoire quand il. Moi, je suis d'accord avec toi sur. C'est pas terrible qu'il revienne à Marseille. Ça, je te le dis. De toute façon, moi, que ce soit sportivement ou même au niveau du personnage, parce que là, on parle même pas de la dimension de l'équipe nationale où c'est grave ce qu'il peut dire parfois. Mais je suis désolé. Là, c'est même plus qu'un cas de force majeure. Il y avait vraiment personne. Mais je te promets, il y avait absolument personne. Personne ne venait même aux informations. Personne ne venait, tu sais, de demander de renseignements, quoi. Ouais. Il était dans un néant footballistique. Il avait le choix entre ça et rien.
Je suis d'accord avec toi. Il a fait son choix. Je le respecte. Ça n'empêche que c'est un menteur et voilà. Et il passera.
En même temps, les menteurs qu'il y a.
Ah ouais. Maintenant, dans le football, c'est courant.
Non, mais c'est pour ça que je te dis, tu vois. C'est que moi, j'ai l'impression qu'on essaie de faire. Pardon, vas-y, excuse-moi.
J'ai juste apporté cette question. D'accord avec toi. Certes, il n'avait pas de club, mais pour certaines personnes qui arrivent dans un an, c'est juste qu'il passe pour un menteur. Il passe pour un mec qui n'a pas de fierté, qui n'a pas de fierté, qui passe pour un Marseille, très bien, j'espère, voilà.
Non, en même temps, tu me dis ça, mais ce que je veux te dire, c'est pas ça. Je dis pas que c'est pas un menteur. Je dis juste qu'il faut arrêter de le présenter comme le symbole de la salope.
Mais comprends la déception des supporters parisiens, Narvolo.
Je la comprends, mais je te dis même que je les comprends, et même moi, j'étais pas emballé quand il arrive, parce qu'il est un ancien parisien. Donc c'est évidemment que je comprends ça. Tu sais, il y a un truc qu'il faut savoir, c'est que les Marseillais et les Parisiens, sur ce point précis, c'est pareil. Quand il y a un Parisien qui signe à Marseille, on n'est jamais content. Et l'inverse est vrai aussi. Ça, pour le coup, tu vois, c'est le truc où on est vraiment unis. On est unis contre ce genre de joueurs-là. Mais le problème, c'est que juste ne le mettez pas en avant comme si c'était la seule salope. Parce que quand je vois par exemple les supporters milanais chialer parce que Kaka s'en est allé alors que Kaka il a...
Non, certains supporters milanais.
Voilà, et puis Messi, quand on n'arrête pas de parler de la fidélité de Messi au Barça, il a renouvelé 3 fois son contrat en 2 ans. Tous les 8 mois, il part leur demander un nouveau contrat. Donc tu vois, menteurs, il y en a, mais il y en a plein des menteurs. Ils mentent tous quasiment.
Ah ben oui, non mais ça on est d'accord, mais bon. On
mais c'est pour ça, il n'y a pas que lui, c'est tout.
C'est quelque chose qui différencie Heinze un peu des autres, parce que justement, il était très près du public quand il était au PSG. Il était très apprécié. Enfin, sinon,
Heinze, faut savoir que c'était le chouchou du public parisien. Je me rappelle d'une image quand son père est décédé. Enfin, c'était vrai. Au Parc des Princes, il y avait eu 2 minutes de silence. Je crois que c'était vraiment un truc de fou. Il avait embrassé le maillot. Enfin, voilà. C'était vraiment le symbole du club. Il représentait le Paris Saint-Germain. Et ce qu'il a fait, je m'en fous qu'il n'avait pas d'autre club. Je peux le comprendre. Mais juste, il passe pour un. Je le répète, c'était bien souligné. Il passe juste pour un menteur. Pour un mec à la parole.
Mais enfin, je m'en fous qu'il n'ait pas de club. Pour le coup, c'est encore plus critiquable. Parce que, à entendre les Parisiens, il aurait dû arrêter sa carrière, quoi.
Non, il n'aurait pas dû arrêter sa carrière, je te dis.
Mais il n'y avait personne pour le prendre, donc il fait quoi? Il va entraîner, il va ramener les chasubles à Drenthe. Moi, je préfère me pendre encore.
Non, moi, juste sur le truc, par
si
rapport
c'est à Drenthe à jouer au ballon, je préfère jouer au PSG, non, ou même à Saint-Etienne.
Il n'y aurait pas un club qui se serait manifesté pour prendre Gabriel Ndiaye.
Franchement, il n'y a eu personne jusqu'à que Marseille arrive. Et tu te doutes bien que Heinze, c'est un mec, pour le coup, il aime beaucoup l'argent. Mais beaucoup, beaucoup, beaucoup l'argent. Hein. Ça, pour le coup, il aime beaucoup, beaucoup l'argent. S'il décide de perdre une grosse somme, c'est pas pour rien. Surtout que Heinze, il avait un pourcentage sur son transfert, ça il faut le savoir.
Ouais, justement pour revenir sur ce qu'a dit Cénote. Moi, je suis d'accord, je vais être cynique sur le coup, mais est-ce que les supporters en général, et pas que de Paris, mais ils sont pas naïfs? Parce qu'il suffit qu'un joueur embrasse les cuissons, qu'un joueur dise ah ouais, c'est le club de mon cœur, fuck Marseille, ou un Marseillais dise la même chose sur Paris. Enfin bon, pour que les gens après directement soient voilà désappointés parce que lui il signe à Marseille. Moi, ça m'a fait chier quand Enza signe à Marseille déjà parce qu'il est estampillé parisien. Et puis moi, j'ai beaucoup de doutes sur son niveau de jeu. Mais je veux dire, est-ce que les gens ne sont pas naïfs, quoi? Je veux dire, c'est cynique, mais voilà. Peut-être que maintenant, les joueurs de foot, c'est ça, ils n'ont plus rien à branler. Ils vont au contrat, au plus offrant, et puis voilà, je sais pas s'il faut être trop étonné de ça, quoi.
Je crois que t'as bien raison.
Et puis, faut pas oublier un truc, avec tout le respect que j'ai pour mes compatriotes argentins, ils adorent faire le show. Ils adorent faire le show. Enzo, il a fait le show. Il fait tout le temps le show. Tu l'as vu? À Manchester, c'était pareil. Il était là, moi je suis un guerrier, blablabla. Au Real Madrid, pareil, il mettait des tampons pas possibles. C'est comme ça, c'est sa façon de voir les choses. Et puis, pour le coup, là où tu vois, je trouve ça un peu bizarre parce que le côté Heinze, énorme symbole du PSG, j'ai trouvé que ça faisait très bon, maintenant qu'il a signé à Marseille, allez, venez, on va le charger, les gars. C'est pas Mamadou Sakho. Tu vois, moi, par exemple, pour le coup, évidemment, si Sakho signe à Paris, mais à Marseille, pardon, mais je me trouverais scandalisé, évidemment. Mais c'est pareil. Et dans l'autre sens, quand Luxin est arrivé à Paris, il n'y a pas eu grand chose. Quand Dalmat est arrivé à Paris, il n'y a pas eu grand chose. Donc pourquoi, quand ça va du côté de Marseille, c'est là que c'est tous des salopes?
Si comme Sinot dit, il a vraiment déclaré.
La preuve. Il n'y a pas de souci. Il l'a dit plusieurs fois, hein, pas qu'une fois. Hein.
S'il a déclaré, oui, le seul club en France que je connais, c'est Paris. Jamais j'irai à Marseille, etc. Le fait qu'il y aille, voilà, c'est pas terrible. Après, c'est pas parce que les trois quarts des footballeurs sont des menteurs et des faux culs et que club de cœur, ça veut rien dire, que c'est normal et que tout le monde le fasse.
Ça non. Mais moi, ce que je veux dire par là, c'est comme quand Drogba la ramène en disant Marseille, ben voilà, le mec il a Chelsea. Quand Gerrit pleure en disant ouais, je pars, on n'a pas pu se mettre d'accord, en gros, je reviendrai Marseille, j'achèterai une maison dans la région et tout, mais le mec il se barre, quoi. Donc moi, ce qu'il dit, j'en ai rien à foutre, quoi, tu vois. Moi, je prends pas ça pour argent comptant. Donc bon, voilà, sur le coup, tu peux être un peu désappointé, ça te fait chier, mais après, de là, en faire tout un flanc, je sais pas, quoi, tu vois.
Drogba, c'est un très bon exemple. Tu prends Drogba. Alors, d'une part, je crois que c'est en Ligue des Champions, je crois, il avait planté un coup franc. Il avait dit à l'OM, aux supporters parisiens, il a toujours clamé son amour pour Marseille, etc., etc. S'il va à Paris,
bah, c'est exactement la même chose en fait.
Bah moi, je trouverais pas ça normal.
Voilà. Mais moi non plus.
Et je peux dire que si Drogba,
moi non plus, parce que je trouve pas ça normal que Enzo vienne à Marseille. Donc, faut voilà. Pas, voilà.
Ah mais ouais.
Non, attendez, il y a une petite friture en fait dans ce que je dis. J'ai jamais dit, comme l'a dit Agbé, que je trouvais ça normal et que je cautionnais son attitude en disant que c'est le cas de tout le monde. Non, absolument pas.
T'as dit tous les footballeurs sont des menteurs, donc.
Oui, mais je vais t'expliquer, c'est pas ça que je voulais dire. Je voulais pas dire c'est normal ce qu'il a fait parce que c'est tous des menteurs. Je voulais juste dire que, comme c'est tous des menteurs, pourquoi dire Heinze c'est le plus menteur de tous? Parce que c'est ce qui se passe en ce moment. On est en train de dire, c'est le plus mauvais d'entre eux, c'est le plus connard d'entre eux, c'est le plus traître d'entre eux. Non, 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 c'est pas le plus traître d'entre eux, c'est un des traîtres parmi plein d'autres. Et je suis désolé, moi, cette histoire de le PSG, moi, j'ai entendu, honnêtement, qu'ils disent, et ça, je l'ai entendu en espagnol, en français, quand ils disaient, oui, c'est un club où j'aimerais revenir, et tout ça, j'ai entendu. Mais le côté, je ne reviendrai qu'à un truc, j'ai jamais entendu. Après, ça, je t'avoue que si je me suis planté, il n'y a pas de problème, hein, comme d'habitude. Si tu me montres la preuve, Flo, et je me doute que tu vas me la sortir dans pas longtemps, il n'y a pas de souci, mais moi, j'ai pas entendu ça.
Ouais, pareil.
Voilà, c'est juste ça. Moi, je voulais juste dire que je trouvais scandaleux de l'ériger lui comme si... J'ai l'impression que c'est un violeur, tu vois.
Ça, d'ailleurs, il y avait un très bel article sur ce site qui résumait bien et je te montrerai pas tout.
On a fait un gros HS, donc on va laisser Arnaud remettre...
On a fait un grand tour.
Et je pense que c'était bien d'apporter quelques petites précisions sur MV et du pourquoi, du comment, voilà.
Exactement, Sinot. Non, mais c'était bien. En plus, ça a permis de manger, donc... Vous pensez aussi à ceux qui font le ramadan, donc, excusez-moi. Ouais, Hugo, juste, tu voulais finir sur peut-être cette affaire-là, si t'avais un petit mot à placer avant qu'on enchaîne. Là, on était sur Gomis, finalement, on est parti sur Ainzo, c'est pas grave, on a parlé un petit peu de cette histoire-là, on en avait pas beaucoup débattu depuis le début de la saison, donc c'est bien, ouais, Hugo.
Bah, si on se met à la place des joueurs, soit aller à la NPE ou signer à Marseille. Franchement, tu lui signes à Marseille, quoi. Je veux dire, pour arrêter de penser qu'à sa gueule, faut voir sa situation, et puis voilà.
Moi, donc ouais, toi, tu cautionnes quand même le fait qu'Ainze soit venu à Marseille.
Je cautionne pas ses paroles, je cautionne pas son choix, mais dans la situation où il était, il y avait que ça à faire,
quoi. Ok.
C'est
bien.
Exactement ce que je dis. Je suis absolument pas d'accord qu'il signe à Marseille, C'est tout ce que je veux dire, moi. Je suis d'accord, c'est pas terrible tout ça, mais il avait vraiment pas d'autre choix. Donc je comprends son choix, mais ça veut pas dire que je trouve que c'est un bon choix. On est d'accord.
Bon, très bien. Bah, ma foi, on va enchaîner, on va revenir. Donc à Lyon, on parlait donc de Gomis, et on va peut-être passer justement à Saint-Etienne. Marvolo voulait faire un petit pamphlet ce soir sur ses amis stéphanois. Et bah, on va parler de Saint-Etienne. Alors, comment dire, l'équipe à 0 points, ça va nous permettre en même temps d'avoir, si on a Rémi dans la soirée, ça va nous permettre de parler des équipes à 0 points.
Si.
Comment?
Si, on arrive à l'avoir, oui.
Ouais, si on arrive à l'avoir, parce que c'est pas évident d'avoir des gens sur Auxerre, vous nous comprendrez.
Pédale pas assez vite.
Voilà, exactement. Alors, les Verts... Juste une petite info de dernière minute, apparemment ils se sont mis en tête d'attaquer RMC en justice parce que Vincent Moscato, qui fait une émission le soir, aurait proclamé des injures raciales envers le club. Alors je ne sais pas, on verra ce qu'il en est dans les jours à venir, mais sur une actualité un peu plus générale, les problèmes que connaît Saint-Etienne. Alors Marvolo, est-ce que tu pourrais nous faire une petite introduction sur le pourquoi, enfin qu'est-ce qui ne va pas, tu vas peut-être un petit peu te répéter de ce que tu as dit samedi, mais pour réintroduire le débat, ce serait bien sur ce qui ne va pas à Saint-Etienne en ce moment.
Attends juste, je te coupe Habib, c'est le directeur général qui porte plainte contre RMC et le club se met partie civile. C'est Tong Kong ou je sais pas comment il s'appelle, l'asiatique là. Apparemment Moscato, je sais pas ce qu'il a dit, et apparemment il a mal pris et il porte plainte contre lui pour un jeu racial, mais en fait c'est envers le directeur général et voilà.
D'accord, très bien.
Quelqu'un sait ce qui a été dit, ce qu'il a dit Moscato?
Non, perso je sais pas moi.
Ouais, justement, non, j'ai vu l'info, mais bon, on devrait avoir les déclarations dans peu de temps, donc si on les a dans la soirée, on vous les communique, sinon...
Genre un truc que la Tirola, non, qu'il allait faire des nems ou un truc comme ça?
Ouais, je suppose, c'est bien le genre en plus, donc... Ouais, donc Marv, on en revient là donc à la forme de l'équipe, là on sait qu'il y a eu 200 personnes qui sont allées manifester en bas de la tribune présidentielle, bon, d'après toi, je vais te poser la question simplement, qu'est-ce qui ne tourne pas rond à Saint-Etienne en ce moment?
Je te pose une autre question, qu'est-ce qui tourne rond à Saint-Etienne en ce moment?
Le ballon.
Oui, ça part. Oui.
Je suis même pas sûr que le ballon tourne rond, tu vois. Je suis même pas. Même ça, il bivote, c'est devenu un ballon de rugby, une balle de golf, on n'est pas sûr. Franchement, il n'y a rien qui marche. Ils ont une charnière Guerranendo, Bayalsal. C'est des poètes. Ils ont une attaque hier, Sanogo. Là aussi, ils font peur au ballon.
Sanagao.
Hein?
Sanagao.
Voilà, c'est Sanagao, peut-être, on verra. Mais bon, quoi, il y a absolument rien qui marche. Bon, le milieu de terrain, il est pas trop mauvais, je trouve, franchement. Payet, Jason Fernandez, Matuidi et Landrin, ça tient encore un peu la route, mais le gardien Jeannot aussi. Et puis en deux, ils ont planté, il me semble. Donc c'est oui. Tu vois, il y a quand même certaines choses. Bon, apparemment, Ilan, il va s'en aller, c'est une quasi certitude maintenant. Et bon, ils ont Alain Perrin aussi, quoi. Alain Perrin, c'est vraiment, vraiment un coach de merde. Vraiment un coach de merde. Il est incapable de vraiment. Bon, alors il l'a fait à 3, hein. Il a monté un club du néant quasiment. Mais que ce soit à Marseille ou à Lyon, il a montré certaines limites. Alors à Lyon, il a fait un doublé Coupe Championnat. Je trouve que pour son parcours à Lyon, ils ont été très, très sévères avec lui. Parce que déjà, c'était pas un foot. Très laid à voir, quoi, c'était pas Puel. Il fait doubler Coupe Championnat que même Gérard Rouillet n'avait pas réussi à faire.
Et au final, c'est clair, a pas été fair play avec lui, Olas. Là, je te rejoins totalement. Il l'avait laissé à côté, je me rappelle, du podium le soir de la remise du trophée et tout ça. Donc, c'est vrai qu'il en a pas, enfin, il a pas eu les mérites qu'il aurait dû avoir.
Non, mais voilà, et puis, le problème, c'est que quand on voit aussi pareil les noms qu'ils ont tenté de recruter, c'est. Sanogo, déjà, ça montre un petit peu que soit ils connaissent pas du tout le football. Sanogo, ils l'ont pris combien, par curiosité? Parce que je sais pas combien ils l'ont pris.
5, il me semble.
C'est pas une attaque gratuite.
Même pas.
Je peux pas savoir combien ils l'ont pris. Mais bon, ça doit être assez cher.
5 millions.
S'il n'y avait pas, par exemple, les moyens de mettre un peu plus d'argent pour prendre un meilleur joueur. Je pense qu'en France, même si on critique souvent la Ligue 1, il y a quand même des joueurs qui sont intéressants. Je pense à c'est parmi les joueurs qui ont été courtisés un petit peu, on peut prendre, je sais pas trop. Bon, Gamero, c'est trop cher pour eux, même si c'est un très bon joueur. Mais voilà, je trouve qu'ils ont pas bien joué ils ont absolument pas bien recruté. Ils ont encore vendu, ils ont vendu Gomis 15 millions, ce qui est très bien. Mais le problème, c'est que si tu vends Gomis 15 millions pour récupérer Sanogo, ça sert à rien. Et puis, bon, comme je le disais l'autre fois, je te redonne rapidement la liste des attaquants. Ilan, Gigliotti, Miralas, Rivière, Sanogo, Dos Reyes et Maodo Malik Faye. Qu'est-ce que tu veux faire avec ça?
Non, mais tu dis qu'ils recrutent mal. Mais le problème, c'est que personne n'a voulu aller là-bas. Ils ont essayé, mais il n'y a personne qui veut aller à Saint-Etienne, quoi.
C'est pas ça le problème. Parce qu'ils recrutent mal, pas que depuis cette année.
Ah oui, non, mais ça, ouais.
Pas, je veux dire, Guirin Endo, est-ce que c'était obligé de le prendre? Franchement. Est-ce qu'il est meilleur que Tavlaridis? Tavlaridis, il est catastrophique, on est d'accord. Hein. Mais est-ce que Guirin Endo n'est pas catastrophique aussi?
Non, mais Endo, c'est le genre de mec qui trouvera toujours des clubs parce qu'il est grand, physique, gaucher. Donc il y aura toujours quelque chose, polyvalent. Donc il y aura toujours un club pour lui. Bon, après que là sur le coup ils sont manqués, c'est une chose. Hein. Là, Perrin l'a pris pour le faire jouer en défense centrale, tout en sachant qu'il était polyvalent. Donc bon, ouais, là c'est une erreur de leur part, c'est sûr, mais voilà.
Mais je sais pas, moi j'ai l'impression que tu vois, il y a des clubs comme ça qui réfléchissent pas avant de recruter. Franchement, j'ai l'impression qu'ils réfléchissent absolument pas. Quand tu vois les moyens de Lorient et les moyens de Saint-Étienne, comment ça se fait que Lorient finisse quasiment tout le temps devant?
Ouais, ça. Bah, ouais.
C'est ce genre de choses que je comprends pas. Et puis, bon, après l'histoire des deux présidents, on va pas en revenir 130 fois, mais quand t'as deux présidents, tu sais pas qui est le boss, donc ça marche pas. Et puis voilà, ça manque peut-être un petit peu de.
Ça y est, Dark Vador qui arrive là.
Pour continuer sur Sanogo.
Tu vas te faire corriger, Marvolo.
Sanogo, c'était la priorité de Perrin. Apparemment, c'était la priorité de Perrin, pas forcément du directeur sport de Comoli, il me semble. Mais c'était la priorité d'Alain Perrin.
Ah bravo alors.
Ouais, ils voulaient prendre Doumbia aussi, mais ils ont pas pu.
Sinon, pour revenir au mercato, Stéphano, vite fait, apparemment, il y a la signature prochainement du milieu argentin Augusto Fernandez de River Plate. Donc, voilà.
Ouais, ils sont toujours sur Tardelli aussi, je crois. Ouais.
Mais apparemment, ça serait plus Fernandez.
Et c'est un bon joueur?
Faut voir, quoi. Comment on va s'adapter en Ligue 1, c'est pareil, mais ouais.
Ouais, Hugo.
Fortement en mercato de Monaco, je crois, 2006-2007, on recrutait que des Sud-Américains. Ça prend la même direction, on recrute que des Sud-Américains, ça s'entasse, et après, ils vont galérer à vendre.
Ah ouais, ils connaissent pas le club, c'est les seuls qui veulent venir.
Ouais, en plus, en plus recruter sud-américain si tard dans la saison, enfin si tard plutôt. Enfin pour le début de saison, déjà 3 matchs joués, le faire venir le temps qu'il s'adapte, enfin bon, je sais pas si c'est vraiment un bon calcul quoi.
Et
est-ce qu'ils avaient le choix?
Oui, vas-y.
Est-ce qu'ils avaient le choix?
Ben non, parce que personne ne va aller chez eux, quoi.
Regarde tout ce qui se dit sur Saint-Etienne. Bon, le fait qu'il y a deux présidents, c'est le bordel, on sait pas qui est boss. Perrin qui se fait pas respecter. Une ambiance de merde sur dans le groupe, dans le vestiaire, qui apparemment aide pas sur le terrain. Ça donne pas envie d'aller à Saint-Etienne quand tu connais ça, quoi.
Surtout que les joueurs le.
Après, il reste des Sud-Américains qui connaissent pas le club et qui peuvent être un bon coup et qui en plus sont pas chers, quoi.
Ouais, non, bah on est assez d'accord. Fabien, tu voulais peut-être rebondir encore une fois sur le mercato stéphanois. Toi, t'en penses quoi?
Bah pour le recrutement de Sanogo, j'ai vu un petit bout du match face à Boulogne. Je vois pas ce qu'on peut vraiment lui reprocher, quoi. Il a pas.
Ouais. C'est vrai.
Ça a pas été un bide, quoi. Et après, bon, pour le départ de Gomis, c'est vrai que c'est pas d'hier, quoi. Il est parti. Ils auraient pu prévoir un peu un remplacement, quoi. Je veux dire, ça s'est pas fait.
C'est vrai qu'on en parlait à Marseille l'année dernière de Gomis. On en a longtemps parlé. Ouais.
On se doutait bien qu'un joueur comme Gomis allait pas rester 5 ans à Saint-Etienne, quoi.
C'est sûr, ouais. Hugo.
Bah, je veux dire que le Gomis de l'année dernière, il est pas irremplaçable, hein, loin de là. Puisque si je me souviens bien, le Gomis de l'année dernière, c'était un des joueurs les plus traités à Saint-Etienne. Et tout d'un coup, il prend, c'était le joueur qu'il fallait absolument remplacer. Donc je comprends pas trop ça aussi.
Ouais, mais qu'il parte, c'est une chose, mais qu'on le remplace pas, c'en est une autre, quoi.
Ah, mais celui de l'année dernière, pour avoir vu, c'était une catastrophe, tu vois.
Ouais, c'est clair, Miralas pouvait très bien faire office de remplaçant, quoi, l'année dernière. Oui, Marv?
Moi, où je suis pas trop d'accord, c'est dire que c'est pas une perte, tout ça. Je vois jamais les choses comme ça. C'est, par exemple, les fans de Manchester sont en train de nous expliquer que vendre Cristiano Ronaldo à 94 millions, c'est pas une perte. Oui, mais ils ont pris qui pour le remplacer? Valencia et Owen. Est-ce que dans la balance, si tu veux, elle est équitable, elle est à égalité? Je suis pas d'accord. Et là, c'est pareil. Si tu vires Gomis, même pour 15 millions, hein, c'est un super prix, on est d'accord. Mais si tu le vends pour 15 millions et que tu recrutes Sanogo, t'es perdant dans l'histoire. C'est tout simplement ça. C'est, faut voir qui est arrivé à sa place.
Ouais, c'est vrai. On a eu la même histoire là, avec Milan. Il y en avait beaucoup qui étaient satisfaits du départ de Kaka pour par rapport à ces augmentations dont tu nous parlais tout à l'heure.
T'es là? Il a dit 1000 ans à ses caca, il a raccroché, il s'est dit bon, je vais me branler maintenant. Ça m'a trop excité cette histoire de 1000 ans caca, 1000 ans caca. Il est en train de se réimaginer le but qu'il a marqué contre Manchester.
Je sais pas. D'ailleurs, mon sandwich est excellent. Voilà.
C'est super, c'est pile dans le sujet ça, Roméo.
Non, mais.
Ça s'arrange. Hein.
Voilà, est-il là?
Arnaud,
ouais. T'as fait la vaisselle?
Attends, non, mais je parlais dans le vide depuis tout à l'heure, là.
Ah bah ouais, oui. Ouais. On confirme, ouais.
Je suis dégoûté. J'avais fait un bon petit truc en plus, là. Bah, on renchaîne ou pas, là?
On arrête pas, quand même.
Sinon, si je peux finir vite fait sur Saint-Etienne, va quand même vite falloir réagir, quand même, niveau classement, quoi. Même si interne ça va pas, sur le terrain, va falloir vite que ça aille mieux, quand même, parce que 0 points au bout de 3 matchs. Ça joue Grenoble, je crois, la semaine prochaine. Il va falloir vraiment réagir maintenant.
Ouais, justement, c'était ça que je voulais enchaîner là avant qu'il y ait la petite coupure technique. C'était sur le classement. Bah, je voulais te demander, par exemple, à toi, Palenka, qu'est-ce que t'en penses? Est-ce que tu vois ça vraiment mal engagé? On sait que l'année dernière, Saint-Etienne avait passé toute une première partie de saison, voire les deux tiers, à une très mauvaise place. Et finalement, il s'était repris. Non, c'était il y a deux saisons, pardon. Et il s'était repris sur la fin. Là, on commence. C'est un début que les Verts n'ont jamais connu en Ligue 1. J'avais vu une stat là-dessus. 3 défaites comme ça lors des 3 premiers matchs, ça aurait été jamais arrivé. Tu penses que ça va vraiment être dur ou tu penses qu'ils ont quand même la capacité par rapport, par exemple, au fait qu'ils aient, ils ont des bons supporters, le fait que, par exemple, ils aient des joueurs comme on l'a dit, des bons petits joueurs comme Ilan au milieu de terrain, ils ont toujours Matuidi. D'ailleurs, en parlant de ça, ils ont quand même une possession de balle souvent supérieure à 60% lors de leur match et ils arrivent à rien faire. Donc, on en revient au problème de l'attaquant. Tu penses quand même que c'est une solution solvable, toi, Palenka, ou tu vois ça quand même vraiment difficile?
Bon, moi déjà, il y a 15 jours et la semaine dernière, je pensais, même maintenant, je pense qu'ils vont se sauver. Mais le problème, c'est que entre temps, il y a eu le match à Boulogne où ils ont eu 35 millions d'occases, un poteau, et Boulogne sur une frappe met un but. Ils ont 5-6 blessés. Enfin bon, c'est vraiment le bordel, quoi. C'est vraiment la saison de merde, la guigne. Enfin, je sais pas quoi. J'ai l'impression que c'est la saison catastrophe pour eux. Donc moi là, comme ça, comme tu dis, en se basant sur l'effectif, bon Perrin qui est bon, même si certains ne l'aiment pas, mais moi je sais pas, c'est quand même un entraîneur correct de Ligue 1 qui doit être capable de sauver Saint-Etienne avec l'effectif qu'il a. Donc moi personnellement, je pense qu'ils vont se sauver, sauf si vraiment c'est la saison catastrophe. Bon là, c'est déjà un petit peu engagé comme ça. Genre voilà, la saison de tous les de toutes les, voilà, il va se passer tout dans cette saison, quoi. Déjà ça, en 3 matchs, il y a déjà eu pas mal d'événements. Donc moi là, comme ça, en se basant sur l'effectif, je pense qu'ils vont se sauver. Mais bon, pour l'instant le scénario est vraiment catastrophique, donc je sais pas quoi.
Il y a juste un truc, il faut pas oublier que Saint-Étienne, c'est comme un peu Nantes, c'est un club très prétentieux. Même quand ils sont en train de se reconstruire, ils ne disent pas « on va tenter de se reconstruire », ils disent « on retrouve l'Europe ». Ils sont tout de suite trop arrogants. Ils n'ont jamais de... Franchement, Saint-Etienne, ils doivent vraiment arrêter, se calmer cette saison, vraiment reconstruire l'équipe. Ils ont une assez bonne base parce qu'ils ont un bon milieu, ils ont un bon gardien. Apparemment, Emmanuel... Enfin, je crois qu'il s'appelle Emmanuel Rivière. D'après ce que disent les Stéphanois, c'est lui qui tient la baraque. Donc, ça veut dire que ce gars-là a du talent. Donc, moi, quand je disais que Rivière, c'était pas suffisant, ben, évidemment, si c'est lui le patron de l'attaque, c'est pas suffisant. Si c'est le leader technique, c'est pas possible. Mais si c'est un joueur de complément, oui. Si c'est une deuxième, tu vois, le joueur qui est entre remplaçant, titulaire, il joue une vingtaine de matchs par saison. Oui, c'est bien. Et puis, Ilan, là, on est en train de parler de Gomis, mais s'ils perdent Ilan, ils vont faire comment? Parce que, Ilan, pour le coup, c'est un vrai bon joueur.
Non, mais Ilan, il restera. Hein. Parce qu'apparemment,
il a annoncé qu'il restait, je crois.
Voilà, il voulait discuter une prolongation, mais il n'a pas eu de nouvelles. Les dirigeants ne veulent pas qu'il parte. Donc lui, il a dit, voilà, ma situation, elle est comme elle est. Je prolongerai pas. J'irai au bout de mon contrat. Je partirai libre et voilà.
Hein. Enfin, un joueur qui parle, tu sais, un joueur qui parle libre, sur sa dernière saison, il est quasiment jamais bon.
Non, mais ça, je suis d'accord avec toi. Mais...
Parce qu'à partir de janvier, il va passer plus de temps au téléphone avec son agent qu'à s'entraîner et avoir une hygiène de vie correcte. Et à partir du moment même où il aura signé avec son futur club, il n'en aura plus grand-chose à foutre de Saint-Etienne. Ça, je te parle du joueur lambda. Après, Ilan, c'est peut-être une vision romantique parce que c'est un joueur que j'adore. Moi, j'ai l'impression que lui, même s'il signe, il va quand même rester sérieux, il va rester pro. Alors après, je me trompe peut-être sur sa personnalité. Mais pour moi... la bonne saison de Saint-Etienne passera forcément par Ilan. C'est, pour moi, sur les joueurs qu'ils ont, c'est le meilleur. Bon, avec Matuidi, mais Matuidi, c'est un autre registre. Mais voilà, quoi. Il faut absolument pas qu'il s'en aille, quoi. Il faut surtout qu'il joue bien. Il faut vraiment construire l'attaque autour de lui, même s'il s'en va l'an prochain. Mais on sait qu'en Ligue 1, généralement, quand tu t'en vas l'an prochain, on essaye de pas te faire de cadeaux et donc te faire peu jouer. Je suis pas sûr que ce soit la bonne idée.
Sans Ilan, l'année dernière, Saint-Etienne, il descendait pour moi.
Parce que c'est un putain de joueur, hein, franchement.
C'est lui qui marquait tous les buts décisifs.
Je me rappelle d'un match contre Nantes, là, ouais.
Sans Ilan, les 3 points, victoire 1-0, elle s'y était pas, et les points, il les marquait pas. Donc, sans Ilan, c'était vraiment un joueur important, et qu'il soit blessé, là, c'est vraiment chiant. C'est comme Auxerre avec Ilan. Dès leur retour, c'est un peu ces deux joueurs qui ont sauvé la fin de saison de leur club, et là, Ilan blessé, c'est pas bon, quoi.
Et tu voulais juste dire peut-être un petit mot sur Rivière, avant de passer la parole à Hugo sur ce même joueur-là, le petit attaquant stéphanois.
Ouais, enfin moi je l'ai vu, c'était samedi dernier quand Saint-Etienne se sont déplacés à Toulouse. J'ai trouvé franchement bon, il a marqué un but assez gag, mais bon, dans le jeu, franchement, il apporte un jeu d'au but, les remises pour les milieux. Il est techniquement, il fait aucune erreur, il est très précieux, physiquement il s'est bien battu. Donc il apporte beaucoup dans le jeu, il m'a fait penser un peu à Gignac à ses débuts, un impact physique, jeu d'au but très très précieux. Donc avec Sanogo ça peut le faire, mais Marvolo l'a dit, Rivière tout seul, c'est pas super, mais en complément avec Sanogo, ça peut être bon.
C'est le sosie de Joachim Noah en plus, il a la même tête que lui.
Oui, c'est vrai qu'effectivement, quand tu le dis. Ouais, Hugo, tu voulais juste dire un dernier petit commentaire aussi sur Rivière.
Je l'avais vu à l'Euro des moins de 19, et je l'avais trouvé bon, voire très bon, mais surtout c'est un battant sur le terrain, c'est pas le gars qui va abandonner au bout de 5 minutes comme le fera Animani. Lui il se débat bien, il se débat à mort et.
Alors, il y avait Lille qui voulait parler.
Ouais, effectivement, Yann qui nous a rejoint ce soir. Je vous avais dit qu'on avait des invités au fur et à mesure de l'émission. Et justement, tu voulais peut-être d'entrer réagir sur Saint-Etienne. Ouais. Qu'est-ce que t'en penses, toi?
Déjà, bonsoir à tous. Moi, personnellement, Saint-Etienne, déjà, ce qui me choque, c'est déjà qu'il y ait deux présidents. Et le fait qu'il y ait deux présidents, c'est l'un dit noir, l'autre dit blanc. L'un va dans le zig, l'autre va dans le zag. Donc déjà, franchement, je trouve déjà c'est pas une politique correcte de mettre deux présidents en place, parce que c'est obligatoirement il va avoir des désaccords. Ensuite, je pense que sur les dernières saisons, ce qui a pas été, c'est le recrutement. Actuellement, Saint-Etienne, elle a une défense de Ligue 2. Désolé, mais les deux défenseurs centraux là, quand je vois des Tavlaridis ou l'autre bûcheron Bayal, je suis désolé, mais ça peut que aller au fond du trou ça. Ensuite, je vois que Endo, il a joué en défenseur central samedi, alors qu'Endo, je pense qu'il est plutôt milieu de terrain central. Moi, je trouve que Varro à gauche, bon, voilà, je veux dire, c'est des joueurs niveau Ligue 2, quoi. Donc, si ça garde ça et si ça construit avec ça, bah, ça va en Ligue 2, c'est sûr. L'année dernière, il y a eu des buts extraordinaires au niveau défensif. C'était zéro, quoi.
Ah ouais, contre Nice, je me rappelle d'un match, des choses comme ça. Et c'est vrai que toi, t'es plus pessimiste que Palenka. Toi, tu vois vraiment, tu les vois dans les trois, par exemple, à la fin de la saison. Bon, on est qu'après trois journées, mais...
Peut-être pas dans les trois, parce que c'est vrai qu'offensivement, ils ont quand même un petit potentiel avec Payet, Sanogo, Matuidi, qui sont quand même, Ilan, qui sont quand même intéressants. Mais défensivement, je trouve que c'est une défense de Ligue 2.
Ouais, ok. Bah ouais, bah je pense que Saint-Etienne, on voit que ça nous aura quand même pris un bon petit bout de temps d'en parler. On est donc somme toute assez inquiets. Un mot maintenant de Toulouse, parce que on a Rognetto ce soir, et Toulouse qui a réussi à faire quelque chose de pas mal grâce à Gignac là en Coupe d'Europe. Juste un petit mot sur votre match face à Lille. Rognetto, t'en as pensé quoi toi avant de faire peut-être
C'est pour moi le plus mauvais match du début de saison, parce que Lille dès le début ils nous ont dominé, nous on n'a pas vraiment réussi à reprendre nos valeurs et Lille dès le début ils ont mis du rythme, ils ont eu pas mal d'occasions, des corners, des coups francs, des tirs et voilà, le TFC on l'avait vu un bon match contre Trabzonspor. Alors c'était pas évident du tout d'aller jouer là-bas, surtout que Trabzonspor c'est une bonne équipe. Franchement, Trabzonspor en Ligue 1 pour moi c'est dans le top 7, parce qu'il y a énormément d'intensité, ils ont rien lâché, puis techniquement ils sont très bons. Donc peut-être qu'on a accusé le coup un peu, puisque c'était un match très intense en Turquie. Et donc Lille qui sont allés jouer à Genk, c'était peut-être un peu plus cool. Donc de ce côté-là, peut-être que on a dû s'en remettre à défendre. On a tiré 8 fois but, un seul cadré, donc c'est le but de Mengue. Certains vont dire Toulouse fait que défendre. Enfin, c'est surtout que Lille a été meilleure et que pour pas sombrer, Toulouse a dû défendre, et on a fait un peu comme l'année dernière, ce qui a fait un peu notre force, sauf que là c'était vraiment la route secours pour pas se prendre 3-4 buts, et on a plutôt bien géré le match.
Tu restes confiant quand même pour l'UEFA?
Oui, pour le match retour, je pense que ça devrait le faire. 3-1 à l'extérieur, faudrait que Trabzonspor gagne 3-0 ce jeudi-là. Je pense pas qu'on puisse sombrer à ce point. On va gérer le match et on va se qualifier pour les phases de poule sans problème.
Ok. Quelqu'un voulait peut-être dire un petit mot sur les Toulousains en ce moment? Oui, Roméo.
Non, je disais Youpi.
Ah, okay. D'accord.
Non, bah, moi, je trouve Rognetto un peu sévère quand même, parce que un nul à Lille, c'est pas un si mauvais résultat, quoi, sur le papier. C'est...
Oui, oui, c'est franchement un très bon résultat. Hier, quand on a égalisé, j'étais très heureux, surtout que Lille, là, j'ai les stats sous les yeux, 33-10 corners, alors que nous, on en a eu que 2, 11 tirs, 57% de possession de balle. On peut être qu'heureux de faire un partout à Lille. De toute façon, Lille-Toulouse a toujours été des matchs assez serrés. L'année dernière, 0-0 au Stadium, un partout à l'extérieur, en Coupe de France, un partout. On a dû aller jusqu'au tir au but pour se départager. Donc, fallait pas s'attendre à autre chose, puisque l'année dernière, on disait qu'on était des équipes jumelles. C'est encore la preuve cette année. Le milieu de terrain lillois, Balmont, Mavouba, Cabaye, c'est le trident qui fait mal et c'est pas du tout bon pour notre équipe avec des joueurs physiques. On a dû essayer de les contrer le mieux possible, mais c'était pas évident. Et c'est vrai que, comme tu l'as dit, Fab, un partout là-bas, ça fait plaisir.
Ouais, c'est un bon.
Ouais, vas-y, Fab, fini.
C'est pas moi qui parlais,
je disais que c'était un bon résultat, mais maintenant, la manière, il n'y était pas quoi hier, et c'est plutôt Lille qui méritait la victoire, et c'est vraiment un hold-up, on va dire.
Oui,
donc, voilà, le résultat est bon, mais la manière est peut-être pas rassurante.
Ouais, oui, Lille a été meilleur que nous, faut pas se le cacher. Hier, ils ont été meilleurs. Dès l'entame du match, ils ont vraiment montré qu'ils étaient motivés pour gagner. Et puisqu'ils avaient perdu leur premier match, ils avaient perdu le second à la Mousse en coin de Marseille, ils pouvaient pas se permettre de perdre deux fois d'affilée à domicile. Donc ils ont montré leurs intentions en début de match. Nous, on a essayé de les contrer, mais avec la fatigue de jeudi et le fait que lui était ultra motivé, c'était vraiment dur d'espérer gagner, quoi.
Ok. Et je voulais te demander comment t'as vécu un peu cette intersaison là avec le départ de Jérémy Mathieu, de Carasso. Est-ce que, je trouvais quand même que vous aviez pas perdu encore. Vous avez perdu deux gros éléments. Tu vas me dire parce que c'était deux bons joueurs la saison dernière. Vous êtes quand même réussi. Vous avez réussi à garder Gignac, à garder Dido, Capou aussi. Vous l'avez gardé vos jeunes là. Et finalement, tu vois ça quand même parce qu'on sait que Sadran, il a pas des moyens astronomiques. Il le répétait même l'an passé. Tu penses quand même que vous en sortez pas mal de cette intersaison là, ou t'aurais mieux aimé peut-être voir une grosse arrivée peut-être, ou quelque non. chose, comment tu le vois le mercato?
Le départ Mathieu, c'est pas celui qui m'a le plus inquiété, puisque il restait qu'une année de contrat, il était en fin de contrat là cette année, et je savais que derrière on avait Mbengue pour remplacer son départ. Enfin, coïncidence, c'est lui qui marque hier, mais sur le talent pur, Mbengue, je pense qu'il est meilleur que Mathieu, il y a rien à dire dessus. Mathieu, l'année dernière, il savait qu'il allait se barrer, de toute façon, il jouait en marchant, on le voyait très bien.
Il était pas exceptionnel, quoi.
Plus motivé du tout. Après, oui, c'est vrai que le départ de Carasso, quand on voit sa saison, on pouvait être un peu inquiet. Bon, on prend Johan Pelé, et bon, il se blesse en match de préparation, mais on voit qu'on a un deuxième gardien super bon. Donc tant mieux pour nous, et voilà. Donc c'est pas vraiment déçu, même satisfait d'arriver de Machado, de celle de Deveau qui a montré des choses intéressantes, et après on va attendre pour ce que vaut vraiment Luan qui est encore blessé pour l'instant.
Ok, ouais, le meilleur recrue pour l'instant, bah même si Pelé peut faire une grosse saison une fois qu'il sera revenu de blessure, je pense que ça reste Machado, vu le coup franc déjà qu'il a mis l'autre fois, puis ça reste quand même, il a prouvé tout au long de la saison dernière qu'il était utile. Je pense que niveau Ligue 1, on a fait le tour ce soir, alors à moins qu'il y ait certains de nos animateurs qui veulent en particulier parler de quelque chose qui leur tient à cœur ce soir. Je voulais finir cette petite partie en parlant des Français à l'étranger, comme on parle quand même d'une émission spéciale foot français. Je peux répondre à quelques questions s'il y en a qui veulent. En Italie, pour les Flamini et autres Frey ou Jérémy Ménez, je ne sais pas, j'ai vu qu'aujourd'hui Anelka voulait prolonger son contrat à Chelsea, donc c'est une information, je pense qu'effectivement ça peut se faire. Il est auteur quand même il sort d'une saison correcte l'année passée, Et puis voilà, alors messieurs, un mot sur les Français à l'étranger ou pas du tout, et on conclut, c'est comme vous voulez.
Ah, moi j'ai kiffé le but de Gallas, le but du nez.
Ah oui, cuisse et...
Il marque du nez, magnifique. Vraiment.
Effectivement, Gallas, c'est un peu le... Mais t'as vu que les défenseurs de l'équipe de France étaient chauds cette semaine, c'est avec Boumsong qui marque du talon, là.
Ah ouais, Boumsong aussi. Enfin,
quel but.
Je sais pas qui est rentré dans son corps, mais il a assuré, en tout cas.
Ah ouais. Oui, c'est vrai que Domenech peut être satisfait, là. Il va être content. On va plus se prendre de but sur corner, on va même en marquer.
Ah. Chic.
Ouais, exactement. Bah, je pense que le mot de Palenka était le bon pour finir cette émission. Je vais tous vous remercier. Il est 22h36, on va pouvoir rendre l'antenne. Merci à vous pour cette belle tablée. Ce soir, on était pratiquement une dizaine. Je rappelle, il y avait Cénote, il y avait Roméo, il y avait Fabien, il y avait Hugo qui était là, qui est parti, il y avait Marvolo, il y a Yann qui nous a rejoint en milieu d'émission, il y avait Palenka, Rognetto, Yagbe... une belle tablée, tout le
foot. Il y avait Rémi, hein, faut pas l'oublier.
Comment?
Il y avait Rémi.
Et il y avait Rémi, bah, qui a eu énormément de problèmes de connexion. On sait pas trop où il est, là, il doit être un petit peu perdu au milieu de sa campagne. Mais bon, je dis ça, je peux pas trop parler non plus.
Oui, c'est clair.
Tout le foot français, je vous le disais, a été représenté ce soir. Merci à tous de nous avoir écoutés. Puis à la semaine prochaine pour une prochaine émission spéciale Ligue 1, spéciale foot français. À très bientôt, bonne soirée.
Salut. Bonne soirée.